Soyez les bienvenus. C'est l'heure de retrouver Alain Jeanne pour votre émission Chut, on écoute la télé, le talk show radio en podcast maintenant sur onécoutelatélé.com. Chut, on écoute la télé avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse. Des biscuits fabriqués à Blanzac en Haute-Vienne avec un savoir-faire artisanal et un goût authentique. Découvrez toutes nos recettes en grande surface, Les Caprices de Thérèse. Dégustez l'excellence. Chut, on écoute la télé avec votre agence de voyage Les Ailes du Partage. Amandine, votre interlocutrice privilégiée, vous proposera voyage à la carte et sur mesure, adapté à votre budget dans le monde entier. Passez du rêve à la réalité en réservant votre prochain voyage au 06 72 32 47 67 et sur voyage-solidaire.com.
Succomber au plaisir d'un dessert Marie Morin en écoutant Chut, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez la fameuse mousse au chocolat à l'ancienne et vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente près de chez vous sur marie-morin.fr.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Ravi de vous retrouver sur notre site onécoutelatélé.com pour Chut, on écoute la télé, le podcast. Tous les lundis à 20h, eh bien, nous vous donnons rendez-vous justement pour ce podcast avec tous nos invités où pendant une heure, nous allons vous accompagner pour passer en revue l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors, vous savez pas? Eh bien, on va faire tout de suite le sommaire. Eh bien, oui, c'est parti.
Chut, on écoute la télé.
Le talk show radio.
Et au sommaire de ce tout nouveau numéro de Chute, on écoute la télé, deux coups de cœur ciné cette semaine. Le premier consacré au film Météore qui sort mercredi dans les salles. Hubert Charuel, Claude Lepape et Idir Azougli seront avec nous dans une poignée de secondes pour en parler. Nos coups de cœur télé cette semaine consacrés évidemment au parfum du bonheur. La série éponyme du livre de Virginie Grimaldi réalisée par Baya Kasmi et scénarisée par Samantha Mazera qui seront là toutes les deux. Caroline Anglade et Michel Bernier viendront également nous parler de leur rôle. Et puis on aura également le plaisir de recevoir Amalia Carotté et Louvre Kouadou pour le final de Tout pour la Lumière qui commence à approcher à grands pas sur TF1. Et puis on reparlera également de Montmartre dans nos coups de cœur télé avec Thibaut de Montalembert qui nous rejoint pour nous parler de la suite qui sera diffusée ce soir à 21h10 sur TF1. Deuxième coup de cœur ciné en fin d'émission, on aura le grand plaisir de recevoir Vinciane Miro et Julien Lambroschini pour la sortie du film C'était mieux demain qui seront accompagnés de Didier Bourdon et Elsa Zilberstein. Un rendez-vous exceptionnel à ne pas manquer en fin d'émission. Et puis, en exclu podcast cette semaine, on va avoir la chance de recevoir Karl Malapa et Kessy Motéclin pour la suite de votre série Les Sentinelles qui sera diffusée ce soir sur Canal+. Alors, sans plus attendre, eh bien voici tout de suite notre premier coup de cœur cinéma de la semaine.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Et notre coup de cœur cinéma cette semaine s'appelle Météore. Ça sort mercredi dans les salles. On a la chance d'avoir le réalisateur Hubert Charuel qui est avec nous. Bonjour Hubert.
Bonjour.
Et qui a été en collaboration pour la réalisation avec Claude Lepape qui est avec nous. Bonjour Claude.
Bonjour.
Merci d'être là tous les deux. C'est l'histoire de trois amis inséparables, cette histoire de Météore dont pour un tout réussit, ça se passe plutôt bien pour lui dans sa vie. Mais les deux autres, c'est pas du tout la même chose, c'est plutôt la diagonale du vide pour les deux qui vivent de petits boulots et de petites combines jusqu'au jour où ils vont se faire prendre, condamner même, pour certains sans permis, etc. Ils vont devoir trouver des solutions et vont demander de l'aide à cet ami qui tout sourit. Et tout va pas se passer évidemment comme prévu. Voilà, je vais m'arrêter là parce que après on va trop en raconter. Mais comment déjà l'histoire de base du film est venue? Qui c'est qui a eu l'idée? Hubert?
Oui, alors l'idée de base, en effet, parce qu'on fait tout avec Claude, mais je crois que oui, l'idée de base, c'est évidemment la mienne, dans le sens où ces trois amis qui ont grandi dans un territoire particulier, un peu symbole de la diagonale du vide, c'est là où j'ai grandi. Et c'était un peu parler de ma jeunesse.
Dans la Haute-Marne?
Dans la Haute-Marne, à Saint-Dizier, évidemment, territoire cher à mon cœur. Et voilà, et donc il y avait la volonté en tout cas de parler de ça et de parler des gens avec qui j'avais grandi.
Claude, vous faites toi deux du coup?
Oui, bah du coup moi Hubert, je connais un peu maintenant Saint-Dizier, évidemment moins que lui, j'y ai pas grandi, mais je connais avec un regard d'adulte et je connais aussi les gens avec qui il a grandi. J'ai tout de suite compris pourquoi il voulait parler des enfants qui sont devenus grands et en particulier du personnage de Daniel, même si Tony, donc celui qui a réussi et qui fait du BTP, est aussi inspiré d'une personne avec qui il a grandi et qui fait vraiment du béton de cette manière-là. Voilà.
Alors la particularité quand même de ce film, c'est qu'il y a plusieurs sujets qui sont évoqués. Il y a effectivement les difficultés qu'on peut rencontrer dans certaines régions. Il y a l'écologie qui en fait partie aussi, puisque aujourd'hui on parle aussi de poubelles nucléaires, de déchets nucléaires dans lesquels travaillent aujourd'hui Tony et dont aujourd'hui Mika et Dan vont aller se frotter. Il y a tout plein de sujets qui viennent comme ça un peu en filigrane. Il y a la disparition volontaire, il y a l'alcoolisme aussi à travers le personnage de Dan. Il y a vraiment tout plein de petits sujets de société quand même que vous avez pu insuffler dans ce film de façon très équilibrée en plus.
Mais écoutez, merci de dire que c'est très bien équilibré, parce que nous c'était toute la grande question pendant l'écriture, puisque évidemment l'idée de base, en tout cas moi je voulais parler de quelqu'un avec qui j'ai grandi, avec mon cousin qui est très proche du personnage de Daniel et qui souffre en tout cas du même mal que Daniel. Et en effet, il y avait l'idée de moi je pense qu'on se retrouve, Claude et moi, en effet, dans le personnage de Mika qui est un peu le témoin de tout ça et qui a envie de faire changer les choses et de changer la personne, essayer de trouver toutes les solutions possibles pour qu'il s'en sorte en fait. Et pour le mélange en effet un peu de toutes ces thématiques, il y avait l'idée de parler des gens avec qui j'ai grandi, il y avait l'idée de parler de ce territoire en effet où j'avais grandi, et l'idée était de se dire ok, comment on va pouvoir mélanger comme ça tout ça, comment on va essayer d'équilibrer toutes les histoires entre, comme vous l'avez dit, l'écologie, le rapport un peu aussi sociétal à l'endroit exactement où c'était tourné, et aussi le mal dont souffre Daniel, et tout ça en essayant d'en faire un film qui ne soit pas misérabiliste ou uniquement dramatique. Voilà.
Non, et puis en plus hyper rythmé. C'est vrai que ces deux amis, on a l'impression qu'effectivement au moment de la condamnation, t'as Mika qui prend vraiment conscience des choses et qui Dan continue à s'enfoncer totalement en perdition. Hein. C'est vraiment un personnage en perdition. Et jusqu'au moment où Mika ne sait plus du tout quoi faire, c'est quelque chose où, Hubert, que vous avez rencontré avec ce personnage inspiré de Daniel.
Oui, tout à fait. Le constat, il est là. Et en effet, c'est quelque chose auquel on se confronte. Et en effet, là, on est concentré finalement sur un laps de temps assez court. Mais finalement, l'alcoolisme, c'est quelque chose aussi auquel tout le monde est confronté. Beaucoup de gens connaissent des gens qui souffrent de ce mal-là, et de savoir comment on y fait face et comment on peut aider et comment on peut soutenir. Et où parfois, il y a des formes d'impasse dans lesquelles on peut se rendre compte, en effet. Mais Claude le disait très bien, de savoir aussi finalement comment se sauver. Et qu'en fait, parfois, la seule solution, c'est vouloir aider ne suffit jamais vraiment, et qu'il y a vraiment un truc de savoir se sauver soi-même. C'est pour ça qu'il y avait aussi toute cette question au sein du film de se dire comment on peut sauver son ami, comment on peut se sauver soi, les uns les autres, et se sauver aussi peut-être de l'endroit de manière un peu plus symbolique.
C'est vrai que on est vraiment en empathie avec ces trois personnages. Dan, donc j'ai bien compris, était inspiré de quelqu'un qui existe et que vous avez bien connu. Comment on fait pour trouver les comédiens ? Et est-ce que quand on arrive à trouver les comédiens, est-ce qu'ils sont toujours à la hauteur, ou justement quand c'est des personnages qui ont existé, c'est toujours plus difficile ? Au contraire, c'est plus facile. Hubert, Claude.
Je pense que c'est au départ où on se dit ça va être compliqué de trouver quelqu'un qui va représenter, notamment pour le personnage de Daniel, qu'est le cousin d'Hubert, c'est-à-dire un mélange de fragilité mais d'énergie folle, d'être ultra drôle, ultra fantaisiste, et en même temps de cacher une immense fêlure et avec vraiment une notion de gravité. Enfin voilà, d'avoir cette densité là, et c'est vrai que ça, on l'a, quand on a vu Idia, on s'est dit ok,
Idia Azoghi, il est incroyable, hein. Enfin on prend une claque, hein.
Ça a été pour nous une évidence dès la première seconde à dire c'est lui. Ça remettait en question des petites choses du scénario, à savoir que c'était compliqué de se dire que c'était des amis d'enfance, puisque c'était ça au départ, des amis d'enfance, sachant que Idir a la manière de parler qu'il a, il est de Marseille, et qu'on ne pouvait pas se dire qu'il était né à Saint-Dizier. Donc on a dit ok, en fait ça, on oublie le fait qu'ils se connaissent depuis 35 ans. Et pour Paul, c'était un peu la même évidence, dans le sens où quand il est arrivé, on s'est dit évidemment c'est lui, il est plus jeune que ce qu'on pensait. Encore une fois, c'était censé être des amis d'enfance et ils n'ont pas le même âge avec Idir. Mais en fait, il avait tellement la grâce qu'on recherchait qu'on s'est dit, en fait, le film s'adaptera à ce que sont les comédiens et s'adaptera à ce qu'ils sont, leur personnalité, et aussi s'adaptera aux liens que les comédiens ont vraiment eu entre eux. C'est-à-dire que Paul, Idir et Salif ont développé une alchimie entre eux, une entraide, une affection qui a porté tout le tournage. Donc c'est vrai qu'on a été enchantés de rencontrer ces comédiens pour incarner ces personnages-là.
Saïf Sissé, qu'on a reçu d'ailleurs au mois de juin pour Le Répondeur, justement, et bluffant aussi. Lui vient de la scène, du one-man show, notamment de l'humour. Et là, il interprète en tout cas avec gravité Tony, qui, malgré les circonstances, on va dire plutôt, qui vit bien et que ça se passe plutôt bien pour lui, a quand même une certaine empathie envers ses amis, qui va chercher à aider. mais à quel prix? C'est ça toujours quand on veut essayer de sortir ses amis un peu de la panade, jusqu'où on est prêt à aller, quoi.
Ben tout à fait, c'était la grande question, c'était de se dire finalement voilà, Tony paraît peut-être le plus un peu extérieur au trio, parce que c'est quand même une histoire d'un trio, et où finalement c'est celui qui se retrouve à prendre le plus gros risque en fait, en décidant de les faire travailler dans son entreprise. C'est quand même une démarche où, en effet, il le dit un peu lui-même aux deux autres personnages quand les choses commencent à se corser un petit peu, mais à l'un des deux, à dire mais moi, enfin lui a quand même beaucoup de choses à perdre contrairement aux autres, et voilà, c'est le seul personnage qui a des enfants, qui a une famille, et donc il y a aussi cette responsabilité, à chose que n'ont pas les deux autres. Et finalement aussi, il y avait, Claude le disait aussi très bien, mais tu me corrigeras si je le dis pas bien, mais finalement, comme ça, de l'extérieur, Tony a l'air d'être celui qui a réussi. En effet, il a une famille, il a un emploi, il gagne bien sa vie, il a une belle maison. Et en fait, en vrai, on se rend compte que plus le film avance, plus en fait Tony, il est presque même finalement le plus seul de ce trio, puisqu'en fait il est lui-même bloqué par le système dans lequel il évolue, et donc dans cette économie en effet liée à l'enfouissement de déchets nucléaires, et finalement tout ça finalement l'isole, et où là il y a une image de personne qui a réussi, et aussi un peu, il y a aussi de la solitude.
Ça s'appelle Météor, ça sort donc mercredi au cinéma, on vous invite à aller le voir avec un casting de dingue pour le coup, Salif Cissé, Paul Kircher et puis bien sûr Idir Azoughli, que vous allez voir, qui va certainement vous bluffer, c'est vraiment un personnage qui prend aux tripes, en tout cas qui m'a vraiment moi marqué, je me souviendrai en tout cas un moment, ça c'est sûr. Votre plus beau moment, peut-être juste avant de se quitter, est-ce que vous avez eu un beau moment sur le tournage, parce que là maintenant qu'on est à 2 jours de la sortie du film, c'est toujours là qu'on commence à être un peu plus extérieur, prendre un peu de recul, est-ce que vous y arrivez déjà un peu ou pas? Claude,
Ça va faire 1 an que le tournage a commencé, donc c'est sûr qu'à chaque fois on se dit bah là l'année dernière on a fait ça. Je pense que ce qui était le plus beau pour nous sur le tournage, c'était quand vraiment les comédiens jouaient presque comme si on n'était pas là. Et le moment qui est dans le film que nous on aime beaucoup, c'est le moment où ils font le ménage tous les deux en chantant, parce que c'était quelque chose que un titre que les comédiens ont choisi. Le film est assez sombre et qui est là très léger, très rythmé, et pour nous dans cette scène on voit tout d'espoir un peu fou et d'amour fou, et c'est vrai que c'est une scène que moi j'aime beaucoup à voir dans le film et à me souvenir de quand est-ce qu'on l'a tournée.
Je crois qu'en effet il y a cette séquence là en fait, est-ce qu'il y a un moment particulier? Moi je sais pas, moi j'ai l'impression que c'est un tournage qui était compliqué, parce qu'en fait peut-être que ça paraît pas si compliqué que ça quand on verra le film, mais économiquement c'était dur de faire tenir ce film dans le temps dans lequel on avait pour le tourner. Et donc on a eu une équipe incroyable qui nous a permis de tenir le film, mais évidemment qu'il y a toujours la tension tous les jours de se dire est-ce qu'on va réussir à tenir cette journée de tournage où voilà, on doit rentrer beaucoup de séquences dans beaucoup de journées. Et il y avait quand même un truc, c'est qu'on pouvait se réveiller un peu avec toujours la boule au ventre et de se dire est-ce que ça va marcher. Je vous assure que dès qu'on arrive sur le plateau et que les trois là arrivaient, il y avait une énergie qui se dégageait qui faisait que voilà, il y avait un truc d'émotion qui nous prenait, nous, et moi je sais que à partir du moment où je les voyais les trois, je me disais mais là aujourd'hui il y a rien qui nous arrête et la journée va très bien se passer. Donc je crois que il y a un peu, je peux pas dire s'il y a un moment très précis qui m'a plu, mais le fait d'à chaque fois les avoir eux avec nous, c'était toujours un espèce de grand sentiment de bonheur et d'amour de les avoir sur le plateau, même sous la pluie, même quand il faisait froid, même quand il faisait nuit et qu'on avait des problèmes. Voilà.
Bon, en tout cas, ça s'appelle Météor, c'est sûr, mercredi. J'espère que ça va bien se passer, j'en suis sûr. En tout cas, pour vous, on souhaite et on vous envoie tout plein de bonnes ondes. Merci d'avoir été avec nous et on vous dit à bientôt. Merci Hubert, merci Claude.
Merci à vous.
Merci à vous.
Et on écoute la bande-annonce tout de suite, Météor, mercredi au cinéma.
L'alcool vous est au-dessus. Donc avec le cannabis, le permis, c'est au revoir.
Quoi ?
Autre chose.
Arrête.
Une personne vous accuse du vol de son chat.
Mec, Kimar, qu'est-ce que tu fais?
Kimar, il est extrêmement moche. Ouais, impossible qu'il me ressemble, c'est impossible que c'est moi.
Il y a un collet GPS en dessous.
Bah, jette-le par la fenêtre.
Attention.
T'as encore des poils là, regarde, sur ton blouson.
Je me suis coupé les cheveux, on a les mêmes cheveux. Je suis blanc vénitien.
Vous comprenez la gravité des faits? Vous pouvez partir en détention là, aujourd'hui, maintenant.
Mais non, moi non, je vais pas en prison.
Voilà, on a récupéré justement Idir Azoughli qui interprète Daniel justement dans le film. Bonjour Idir.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Moi j'ai été scotché par ta prestation. J'ai eu la chance de voir le film au festival d'Angoulême il y a quelques semaines. J'avoue que t'as mis beaucoup dans Daniel. C'est un personnage à fleur de peau. C'est un personnage que tu t'es approprié de quelle façon toi, en tout cas?
Ben en fait moi dès le début à aller à la lecture du scénario, je me suis rendu compte que c'est un rôle nécessaire et en fait là dans ma micro carrière mon but actuel c'est de faire que des rôles nécessaires, des rôles qui servent pour la société, et pour moi c'était nécessaire j'étais obligé de le faire parce que voilà, il y a beaucoup de personnes qui sont comme ce personnage qui
s'appelle Perdition.
Voilà, exactement. Et je me suis dit, il faut que je le fasse parce que voilà, ça va aider, ça va peut-être ou pas aider mes prochains.
À la lecture du scénario, tu as tout de suite senti qu'il y avait beaucoup de sujets en filigrane qui étaient évoqués dans ce film, et pas uniquement, effectivement, peut-être ces gens en perdition, mais pour ton personnage, l'alcoolisme, mais il y a aussi l'écologie, le nucléaire, il y a plein de choses qui sont vraiment de façon très équilibrée en filigrane. Tu t'en es rendu tout de suite compte, toi, à la lecture ?
Oui, directement. Je me suis directement rendu compte. Et après, bon, aussi, après mon rôle aussi, ce qui m'intéressait de fou, c'est l'amitié, justement, parce qu'on parle jamais de l'amitié. Et en fait, ce qui est bien dans ce film, c'est que c'est vraiment, on parle de l'amour amical. Je trouvais ça bien parce que, naturellement, quand on dit l'amour, on pense à l'amour d'un homme et d'une femme. Et en fait, dans ce film, ce qui est beau, c'est qu'il y a vraiment l'amour de deux potes. Et voilà.
Quelle a été la scène la plus dure pour toi ?
La scène la plus dure pour moi, c'était la séparation, parce que elle était dure. Et elle fait penser à plein de séparations qu'on a eues dans notre vie. Et elle était longue aussi, il y avait plusieurs axes, il y avait plusieurs scies. Et le réalisateur a beaucoup cherché pour avoir la bonne scène, ce qui est tout à fait honorable de sa part. Et voilà, et parce que aussi, on a tous vécu ça, le fait de devoir quitter une personne alors qu'on l'aimera toujours.
La rencontre avec Salif, avec Paul.
Magique, parce qu'en fait, on a été pris, on a direct accroché, on s'est vraiment aimé. Je sais que dans le cinéma, tout le monde dit oui, on s'est kiffé, tout ça. Nous, c'était vraiment vrai, parce que ce qui aujourd'hui est devenu un peu rare, aujourd'hui, on n'a plus le temps de faire des préparations, de faire des rencontres, de prendre le temps de se connaître, tout ça. Parce
l'économie
que...
des films fait que tout va très vite.
Exactement, tout va très vite. Et Hubert Charuel, le réalisateur, là où il a été très fort, c'est qu'il a mis un point d'honneur sur ça. C'est-à-dire, on a eu 2-3 mois de répétition, on a eu une semaine de répétition sur les décors, et on a eu même des jours où on se donnait rendez-vous juste pour manger des hamburgers ou pour se boire des verres. On s'est vraiment pris d'une grande amitié, les trois, moi, Salif Cissé et Paul Kircher, et qui dure aujourd'hui, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, et j'espère qu'il durera encore des années.
Il y a des scènes qui peuvent être des fois difficiles, lourdes. Est-ce que malgré tout, le soir, pour décompresser, vous avez fait comment, tous les trois ?
Ben, en fait, le soir, on se voyait, on débriefait la journée et tout. Après, moi, ce que j'aime faire beaucoup lors des tournages, j'essaie, et c'est tout un art de faire ça, mais j'essaie souvent entre les prises, faire rire un peu les gens, faire des blagues.
Décompresser.
Voilà, décompresser, mais d'aller dans chaque département, c'est-à-dire faire des blagues dans le département du son, après faire des blagues dans le département de la déco, faire des, un peu partout. Et voilà, souvent apporter une bonne humeur, et voilà, surtout rigoler quand il faut, tout en étant concentré, bien sûr.
Est-ce que c'est quelque chose qui t'a donné envie de continuer, en tout cas, dans cette voie? Est-ce que tu as des projets dans ce sens? Parce que je suis sûr que ça va t'en amener, en tout cas, Météor, c'est sûr.
Ben franchement, oui, j'en ai beaucoup qui arrivent, c'est encore un petit peu top secret, mais j'ai un film là qui sort le 7 janvier avec Lisa Coca et Roman Guéret, qui s'appelle Ma Frère.
Qui ont devait les pires d'ailleurs, Lisa Coca.
Exactement, et avec qui on a fait un très beau film qui s'appelle Ma Frère, avec Amel Pent et Fanta Kébé. Et Shirel Nataf, qui étaient les deux protagonistes de leur premier mini-série qui était sur Arte, c'était un 7x10, qui s'appelait Tu préfères. Et voilà, et après, moi, le seul truc que microscopiquement je peux dire, c'est qu'en fait, moi, j'ai, je pense que tous les acteurs, on a tous des jauges d'émotions. Par exemple, si j'ai une émotion où je dois pleurer, ben en fait, je vais marrer pendant 10 minutes, 15 minutes avant pour pas puiser cette jauge-là. Et si je dois rigoler, ben je vais être énervé pendant 10 minutes avant pour pas puiser cette jauge-là. Ouais. Voilà. C'était le petit...
T'as des petits tips, c'est comme ça, mais ça peut servir, hein, des jeunes acteurs qui démarrent ou qui sont sur des cours Florent ou des choses. C'est vrai que c'est important de savoir un peu comment tu peux te débrouiller, parce que chacun à son niveau, effectivement, se prépare d'une façon ou d'une autre, mais ça peut être une solution.
Grave, c'est exactement ça.
T'as d'autres envies, à part la comédie? Est-ce qu'un jour t'aimerais passer peut-être derrière la caméra aussi? Est-ce qu'il y a des choses qui te font envie dans ce métier?
Ben franchement, ça va vous paraître un peu bizarre, mais mon envie, c'est de faire chef op.
Chef opérateur ?
Ouais, j'ai pris goût à ça parce qu'en fait, pareil, sur les tournages, entre les coupes et actions, souvent je vais sur la caméra et en fait, j'ai pris extrêmement goût de suivre une personne, d'essayer de la capter au milieu de l'écran.
Les coulisses de tournage te happent quand même ?
Ouais, grave, gravissime. Et bien sûr, peut-être réaliser, pourquoi pas, mais. Mais bon, on a des années-lumière.
C'est que le début d'autre chose qui va se faire avec Météor. En tout cas, Idir, merci d'avoir été avec nous. Et on te retrouve donc en salle mercredi. Allez le voir, vous allez voir, vous êtes bluffé par ce garçon aux côtés de Paul Kircher et de Salif Cissé. Merci beaucoup.
Merci à vous, merci beaucoup.
À très vite.
Merci et bisous à la radio.
Mon biquet, tu veux que je te sers un verre de Sky? Viens.
Arrête, stop.
Vous avez des hobbies?
Moi, j'aime les animaux. On va partir à La Réunion s'occuper des chiens dans un chenil.
On a besoin d'un contrat de travail.
Tu penses que tu pourrais nous prendre avec toi sur les chantiers?
D'analyse toxicologique propre, d'accord? Vous avez 6 mois pour faire vos preuves.
Bienvenue, Agence Nationale de Gestion des Déchets Radioactifs.
On prend pas de radiation, là.
Ça craint rien.
On a ça de La Réunion.
Les gars, venez!
Dan, arrête!
Je vais glisser!
Arrête, hein!
Tu vois rien dans la tête des gens, tu vois rien.
Tu vaux zéro. Je veux plus. J'arrive plus. J'arrive plus. C'est tout. Je veux que tu t'engages à plus faire travailler Daniel.
Tu crois que ça va aider Daniel, ça?
Ce qui va l'aider, c'est qu'on se barre d'ici.
Vous allez jamais vous barrer d'ici, tu le sais très bien.
T'es jaloux de nous, en fait.
Moi, je suis jaloux de vous, moi. Je suis jaloux de vos chiens pourris et de vos poissons, c'est super.
Allez, ne bougez pas, dans un instant, on va parler du parfum du bonheur de Montmartre également, et puis de Tout pour la lumière également, qui vit ces deux dernières semaines sur TF1 avant le retour de la Star Academy. Alors surtout, ne bougez pas, à tout de suite.
Bouge pas, chut, on écoute la télé, reviens dans un instant, à tout de suite. Le rendez-vous des stars, c'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio.
J'ai aimé comme on aime, quand on ne sait rien. Quand les yeux se ferment pour ne surtout pas voir la fin. Je suis tombée trop vite, j'ai rêvé trop grand. Quand j'étais seule par moment, cette fois je passe mon tour. Je fais plus crédit sur l'amour. J'ai comme un déjà vu, le diable est dans les détails. Maintenant j'attends plus de finir le cœur en bataille. Combien de fois j'aurais dû partir avant que ça déraille. Oui c'est déjà vu. Madame sait dire bye bye. Madame sait dire bye bye. Madame sait dire bye bye. Je veux plus être seule à croire qu'on sera encore là demain. Peu importe l'histoire, si je connais déjà la fin. À force de trop donner, on finit par s'oublier, s'abandonner. Maintenant plus de demi-tour, je fais plus crédit sur l'amour. J'ai comme un déjà vu, le diable est dans les détails. Maintenant j'attends plus de finir le cœur en bataille. Combien de fois j'aurais dû partir avant que ça déraille. Oui c'est déjà vu. Madame sait dire bye bye. Madame sait dire bye bye. Madame sait dire bye bye. Claquer la porte, regarder devant, sans se retourner, sans faux semblant. Laisser derrière moi ce qui me hante. J'ai comme un déjà vu, le diable est dans les détails. Maintenant j'attends plus de finir le cœur en bataille. Combien de fois j'aurais dû partir avant que ça déraille. Oui c'est déjà vu. Madame sait dire bye bye. Madame sait dire bye bye. Bye bye.
Chut, on écoute la télé, c'est aussi en live sur onécoutelatélé.com et sur la page Facebook Chut, on écoute la télé. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Et notre coup de cœur télé va toujours bien sûr à Montmartre, dont on va découvrir le 3e et 4e épisode ce soir sur TF1 à 21h10. Notre invité Thibaut de Montalembert qui s'est, allez, on va dire, escarpé du tournage de 10% rien que pour nous, pour pouvoir vous parler de son rôle évidemment du juge Rochefort. Bonjour Thibaut.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. C'est vrai que Montmartre, c'est une série, on a découvert les deux premiers épisodes la semaine dernière avec cette espèce de fratrie qui se réunit, qui se retrouve aussi, et ce juge Rochefort, un rôle très ambivalent qu'on va découvrir tout au fur et à mesure et tout en filigrane au fur et à mesure de cette série. Intéressant, j'imagine, à jouer toutes les facettes de ce personnage.
Oui, c'est un millefeuille, quoi. C'est-à-dire que c'est un personnage, un vrai personnage de bon méchant, je dirais. C'est quelqu'un qui a un passé qu'il cache, qu'il dissimule, qu'on ne voit pas venir du tout, mais qui l'a formé, qui l'a nourri et qui l'a fait tel qu'il est aujourd'hui. C'est pas un méchant froid, c'est un méchant passionné, c'est un méchant qui brûle d'un feu intérieur qui l'a consumé, et dans tous les sens du terme, on va le comprendre en voyant la série. Et puis c'est quelqu'un dont on parle beaucoup indirectement, sans qu'on le sache, mais en fait dont on parle beaucoup. Et donc ça nourrit aussi ce personnage. Il flotte sur la série sans qu'on sache exactement qui c'est et d'où il vient.
Alors, c'est ça qui est assez dingue, c'est quand on voit le personnage arriver dans l'épisode 2, on le voit pas venir finalement. Et il propose son aide à Céleste, il est voilà, et c'est vrai que ce juge, il y a quelque chose de très crescendo qui monte, et je dirais presque intéressant, peut-être une deuxième lecture par la suite quand on aura vu la série, de revenir au deuxième pour découvrir au fur et à mesure en filigrane ce qui se passe sur ce personnage. Au départ, Thibaut, qu'est-ce qui t'a plu en premier quand t'as lu le scénario quand même, malgré tout? Est-ce que c'est l'ambivalence de ce personnage ou il y a eu d'autres choses aussi?
Il y a eu plusieurs choses. Il y a eu le fait que c'était très bien écrit, ce qui n'est pas si courant que ça. Il y a le fait aussi que moi je suis fan des Mystères de Paris d'Eugène Sue. Il y a ceux qui sont pour Eugène Sue et pour Victor Hugo, c'est pas les mêmes. C'est soit Les Misérables, soit Les Mystères de Paris. Moi, j'ai un faible pour Les Mystères de Paris. On retrouve ça dans Montmartre. Il y a le fait aussi que j'ai rencontré Louis Choquette, le réalisateur, et que j'ai vu quelqu'un d'extrêmement posé, d'extrêmement calme, qui possédait déjà le scénario à l'intérieur de lui, et quelqu'un qui regardait la personne qu'il avait en face de lui. C'est-à-dire qu'il prenait en compte l'humain qu'il avait en face de lui. Et cette dimension d'humanité qu'il a se retrouve complètement dans la série et m'a donné envie de travailler avec cet homme aussi.
C'est ça qui est très bien quand on a des personnages comme ça qui sont en plus en costume. Est-ce que ça aide à rentrer plus vite dedans aussi?
Ah oui. Bon, moi je viens beaucoup du théâtre, donc c'est vrai que c'est le costume, c'est très important. Parce que le matin, on débarque pas très réveillé, etc. Mettre le costume, la coiffure, les rouflaquettes en ce qui me concerne, le maquillage, etc. Et on sort de là, ça y est, il est là. Le personnage, il est là. Alors après, il y a toute la préparation intérieure, etc. Mais le costume permet à tout ça de se structurer. Je raconte souvent cette histoire, mais j'ai eu la chance de travailler avec un grand second rôle du cinéma français qui était Henri Virelejeu. Et Henri, j'ai joué au théâtre avec lui à la fin de sa vie, et il me disait, moi les costumes, je m'en fous un peu. Par contre, les chaussures. J'ai 100 paires de chaussures chez moi. Et quand il y a un rôle en costume, c'est moi qui choisis les chaussures. Parce que on ne marche pas pareil avec des baskets, des bottes ou des bottines. Et donc, la démarche, c'est le personnage. Et il a raison.
C'est ça qui est complètement dingue. Est-ce qu'il y a une scène particulière qui va rester sur Montmartre? Est-ce qu'il y en a une qui t'a marqué particulièrement?
Bon, ben, il y a la scène de la fin. On va pas dévoiler, mais la scène de la fin n'était pas écrite tout à fait comme ça. C'est ça aussi. C'est un des grands plaisirs que personnellement j'ai eu, et je sais que mes camarades aussi, sur cette série, c'est que le réalisateur, Louis Choquette, c'est quelqu'un qui n'a pas peur des acteurs, ce qui n'est pas toujours le cas des réalisateurs, parce qu'ils ont peur qu'on leur pique leur boulot. Lui, il n'a pas peur des acteurs, non seulement ça, il n'a pas peur, mais il les aime, et il est très très preneur de ce que vous pouvez lui apporter, dans la mesure où ça va dans le sens
de la narration.
Et c'est vrai que cette dernière scène n'était pas écrite tout à fait comme ça, dans l'action, et qu'on l'a trouvé ensemble, et je pense qu'elle est très forte.
Il faudra attendre 15 jours pour la voir, évidemment, parce que le final, ça sera dans 2 semaines. C'est vrai que quand on voit une série comme Montmartre, on se dit, il y a les décors, il y a des choses magnifiques, évidemment, puis après, il y a quelques petits trucages. Comment on réagit quand on le voit monter, fini? Quelle a été ta première réaction?
J'ai trouvé ça très bien monté. Très bien monté dans le sens où il n'y a pas de gras, et en même temps, on laisse la place dans le montage au silence, on laisse la place à ce que l'image exprime en dehors de l'information immédiate. Très souvent dans les séries ou dans les films français, il y a ce problème de toujours vouloir avancer, fournir de l'information. Or, l'information c'est une chose, mais ce qui donne la chair, ce qui donne le sentiment, etc., c'est tout ce qui se passe entre les mots, c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre de la pensée. On filme la pensée aussi. Et puis ce montage parallèle entre plusieurs histoires qui viennent s'entrechoquer, il est très bien fait parce qu'on n'en perd aucune. Et on est vraiment, on passe de l'une à l'autre avec une espèce de jubilation, un truc très haletant comme ça. Personnellement, moi, les épisodes, les uns après les autres, je les ai dévorés parce que je me suis dit, mais...
Ce que tu disais quand tu as vu le premier, tu l'as même pas vu passer.
Ah non, j'ai rien vu passer.
Bon, ça laisse augurer en tout cas de bien de belles choses. Après les deux premiers la semaine dernière, vous pouvez rattraper hein, sur TF1+, bien évidemment. Le 3 et le 4, c'est ce soir sur TF1, 21h10. Thibaut, on va terminer évidemment parce qu'il va faire l'événement, je n'en doute pas, en 2026. Le grand retour très attendu de 10%, mais ce coup-là au cinéma. Alors là, c'est encore un autre challenge. Et puis,
quelle meilleure façon que de terminer cette aventure.
Exactement. Non, c'est. On est tous très contents. On est tous dans l'histoire, dans l'aventure, toute l'équipe, et on est très contents de se retrouver, bien sûr. Et puis de. Oui, c'est ça. C'est un beau final. Voilà. Ça va être un beau final, et le scénario est vraiment bien.
Puis c'est vrai que ça vous a permis tous, que ça soit Greg, Camille, Fanny, ça vous a tous permis, mais vraiment derrière, de faire des choses extraordinaires. Cette série a vraiment été un déclencheur pour vous tous.
C'est-à-dire que ce qui a été fou, alors d'abord, c'est une bonne série, vraiment. Et ensuite, on a eu la chance que ça ait été acheté par Netflix dès la première saison. Et c'est monté en puissance à l'international, comme c'est monté en puissance en France. C'est une série qui est regardée, mais vraiment dans le monde entier. Moi encore, je me suis fait arrêter il y a une semaine par un groupe de Brésiliens. J'étais halluciné, enfin, qui m'ont dit « Oh, est-ce qu'on peut faire un selfie, machin ?» Des Chinois, des Péruviens, des extraordinaires. Et aux États-Unis, ils en sont mais archi fans. C'est-à-dire, j'étais à New York il y a 3-4 ans, je me faisais plus arrêter dans les rues de New York qu'à Paris, par exemple. Et puis, parce qu'il y a un côté très feel-good, c'est arrivé aussi au moment avant et après le premier confinement. Les gens avaient envie de voir des choses un peu légères, un peu humainement douces, je dirais. Et c'est vrai qu'il y a ça dans 10%. Il y a une espèce de malice comme ça, mais c'est jamais méchant sur les êtres humains. C'est jamais... Et je pense que ce côté feel good fait que c'est les gens ont envie de ça, quoi. Voilà.
Il y a une espèce d'exploration, de fantasme de l'exploration quand même du monde du cinéma, de la télé. Mais comment, en jouant des agents de stars, vous tous, en fait, c'est vous qui êtes devenus des stars maintenant. C'est ça qui est assez dingue et qui est beau. En tout cas, on verra en 2026 et on a déjà hâte. Et je sais pas, mais je suis sûr qu'il sera déjà peut-être en avant-première au Festival d'Angoulême l'année prochaine. Je le sens bien comme ça.
On va voir. J'espère aussi.
Merci Thibaut.
Merci à vous.
Allez, ce soir 21h10, la suite de Montmartre. Et puis on s'est dit à très bientôt, en tout cas pour de nouvelles aventures.
Au revoir.
Mon père a été assassiné, j'étais séparée de mon frère et de ma sœur. Ça fait 23 ans que je les cherche.
Mais enfin, sans argent, on peut rien faire.
Mesdames et messieurs, l'ensorceleuse nue.
Céleste, vous allez être superbe.
Atteinte aux mœurs au cabaret de l'éléphant rose.
Tout ça parce que je me suis mise nue ?
Non, tout ça parce que tu as ouvert une voie.
Montmartre, la série événement, lundi sur TF1.
Et on continue à parler de votre série Les Sentinelles qui vient de débarquer sur Canal+, tous les lundis soirs. Et on a la chance d'avoir à nouveau des comédiens avec nous. Karl Malapa qui est avec nous. Bonjour Karl.
Bonjour, très content d'être là.
Nous aussi, on s'était rencontrés à Série Mania, j'en garde un très bon souvenir en tout cas. Et puis on a Casey Motéclin qui est avec nous aussi. On s'était rencontrés pour Tempête, au Festival d'Angoulême. Bonjour Casey.
Bonjour, ravi.
Merci d'être là. Alors, on va parler évidemment de cette série. Vous avez vu un peu, évidemment, peut-être les deux premiers épisodes, en tout cas j'espère. Sur MyCanal, vous pouvez revoir évidemment en replay la série. On est plongé en pleine guerre jusqu'au moment où on a des soldats incarnés par Louis Pérez qui va se voir inoculer une molécule pour voir s'il la supporte et qui va lui... voire décupler ses forces, ce qui va changer effectivement peut-être le visage de cette guerre. Alors tous les deux, on va parler de vos rôles, évidemment. On va déjà parler de Armand.
Oui. Armand, c'est un jeune mec qui a été recruté parce qu'il s'est blessé sur le champ de bataille. C'est le plus jeune de la bande. Je pense que c'est celui qui incarne l'espoir d'après-guerre, comment on envisage le futur pendant la guerre et toutes ces problématiques.
Et de Clermont, pour toi, Casey ?
De Clermont, c'est un peu le psychologue du groupe. C'est celui qui va vraiment réunir à travers l'émotion toute la bande. Celui qui va permettre vraiment de mettre en introspection tout ce vécu assez dramatique à travers la guerre. C'est aussi quelqu'un qui va être confronté à des pénalités à travers ce qu'il vit dans ce qu'il représente, c'est-à-dire... dans l'homosexualité, puisque De Clermont est homosexuel. Je pense que chacun de ces quatre rôles nous correspondent assez bien à chacun en dehors.
C'est vrai que en fait, cette molécule va quand même vous changer tous, va aussi changer le visage un peu de cette guerre. On est sur un sujet, je crois, un domaine de mélanger séries de guerre et le fantastique qui n'avait jamais été exploité auparavant. Qu'est-ce que vous avez dit quand vous avez lu le scénario ? Moi, j'ai trouvé ça super ambitieux et surtout hyper culotté de mélanger ces deux thèmes un peu et ces deux genres, parce que j'ai trouvé que c'était super réussi pour le coup.
J'avais même pas de genre, c'est une série qui regroupe énormément de genres différents. Il y a la romance, il y a la science-fiction, il y a l'action. C'est une série assez complète dans les genres. Et la lecture du scénario, évidemment, on est extrêmement emballé. C'est-à-dire qu'en France, on a rarement l'occasion de lire ce type de scénario. Donc je pense qu'on a tous énormément d'ambition, d'appréhension à la fois, et on est extrêmement excités de participer à cette aventure.
Oui, ce que vous disiez, que ça n'a jamais été fait, un film qui regroupe la guerre et la science-fiction dans un contexte historique. Moi, je pense à Captain America. Donc, en fait, quand je lis le scénario, honnêtement, je pense que je vais devenir le prochain Captain America, quoi. Donc,
le prochain super-héros.
Exactement, le prochain super-héros. Et après, on arrive sur le tournage et on découvre l'univers de Thierry Poirot. Et en fait, on n'est pas du tout sur du Marvel. Et c'est ça qui fait la force de notre série. C'est vraiment de la science-fiction, mais à la française, avec la sensibilité, avec la subtilité et de la noirceur.
La possibilité de s'identifier, parce que c'est ça. En fait, dans les Marvel, on sait que c'est des super-héros. On va pas forcément s'identifier à ces super-héros, alors que là, il y a quelque chose de très humain, finalement, chez ces hommes.
Oui, totalement. C'est pour ça que je parle de sensibilité. C'est vraiment, je pense, la touche française. Nos scénaristes ici nous permettent encore plus de nous identifier aux personnages et d'avoir de l'empathie pour eux. Et c'est ce qu'on a eu, d'ailleurs, directement à la lecture du scénario, hein. Tous les personnages étaient hyper clairs. Voilà, donc on avait qu'une envie, c'est de commencer, quoi.
Et puis il y a cette dimension réaliste, c'est-à-dire que malgré le fait qu'on ait des soldats augmentés, on reste dans la Première Guerre mondiale, donc c'est vraiment ce partage des deux mondes entre la fiction et la réalité. Donc effectivement, je pense que c'est assez facile pour beaucoup de s'identifier à ce monde-là, plus qu'un Marvel. Et là, c'est vrai qu'on reste dans une réalité qui a réellement existé, un fait historique, avec effectivement cet avantage de pouvoir être extrêmement puissant.
C'est souvent un rêve pour les comédiens de pouvoir se plonger dans des époques, de tourner en costume, de pouvoir s'identifier à des personnages qui ont existé il y a 100 ans. Vous, est-ce que c'était quelque chose qui vous a tout de suite aussi plu, qui vous a fait aller sur le projet? Est-ce que ça fait partie des choses qui vous ont fait dire oui?
Oui, bien sûr, je pense que tout comédien qui lit le scénario a juste une envie, c'est d'être sur ce projet. En tout cas, moi, personnellement, je vis pour ce genre de projet, voilà.
Bien, ouais, tout ce qui est en costume et tout.
Ah oui, tout ce qui est en costume, tout ce qui est fantastique, avoir des pouvoirs, et en plus, là, comme tu le dis, être ancré dans la Première Guerre mondiale, avoir des... Nous, on avait vraiment une équipe de costumes qui a fait un énorme travail de création pour les costumes des Sentinelles. Et en fait, mettre ce costume le matin, mettre cette armure le matin, vraiment, on n'avait presque pas besoin de jouer, quoi. On rentrait dans ce costume, dans le décor, et on y était. Non, ouais, je pense que c'est le rêve de tous les comédiens de faire ce genre de projet.
Zed, Casey, justement, par rapport à des rôles plus contemporains, où que là, il n'y a pas besoin d'enfiler des costumes qui pèsent un poids et qui, je ne vais pas dire qu'empêche forcément de rentrer plus vite dans le rôle, mais est-ce que ça aide à rentrer plus vite dans le rôle, ou que quand on a le costume, on oublie tout le reste?
Bah, effectivement, c'est-à-dire que dès qu'on rentre dans le domaine de l'époque, il y a effectivement une prise de parti au niveau des costumes qui est extrêmement importante. Les costumes font partie intégrale de la composition de l'acteur pour son personnage, et ça va effectivement nous aider énormément à incarner et intégrer la peau de nos personnages. C'est extrêmement important, mais ces costumes ont à la fois été nos alliés et nos pires ennemis, parce que on tournait en plein été, et comme l'a dit Karl, effectivement, c'est des matériaux assez...
Ils sont lourds.
Ils sont très lourds, ils sont très épais. On était sur de la laine, du cuir, avec des casques qui nous rendaient à moitié aveugles, et donc effectivement, c'était pas les costumes les plus simples pour effectuer ce qu'on devait faire, donc en l'occurrence des cascades, beaucoup de cascades, quoi.
Terminé, est-ce qu'il y a une scène qui vous a marqué particulièrement? Parce que quand on est sur des scènes de guerre, sur des choses comme ça, il y a des fois que nous, spectateurs, moi je me souviens vraiment la première scène qui dure 10 minutes, un quart d'heure, champ de bataille, sur le premier épisode qu'on a vu lundi dernier, qui sont des scènes assez difficiles. Est-ce que pour vous, en tant que comédien, ce sont des scènes difficiles à tourner, ça?
Écoutez, je pense que c'est moins difficile pour nous que pour toute la technique. Après, oui, un plan séquence comme ça de 15 minutes pour ouvrir la série, je pense que pour Louis, c'était aussi un challenge. Mais malheureusement, moi, ma scène préférée de la série, elle est pas encore arrivée, le spectateur a pas pu encore la voir. Donc je peux pas en parler, mais c'est à la fin de l'épisode 3. C'est une grosse
c'est ce soir, donc.
C'est ce soir, c'est une grosse bagarre, et ça envoie du pâté.
On voit du pâté ce soir, grosse bagarre donc dans votre série Les Sentinelles. Cassie ?
En fait, c'est toujours ça un peu les tournages, c'est les moments les plus durs, c'est les au revoir, quoi. Comme les rencontres, c'est-à-dire on doit très vite rencontrer les gens pour très vite leur dire au revoir, donc c'est toujours des moments assez durs à vivre.
Surtout quand on passe des mois ensemble, quasiment en immersion sur un tournage comme celui-là. Merci en tout cas, Karl. Merci, Cassie, d'avoir été avec nous. On retrouve la suite de votre série Les Sentinelles ce soir. C'est à 21h sur Canal+. On ne le rate pas, puis sur MyCanal, et évidemment, bien sûr, aussi en replay. Merci à tous les deux.
Merci.
Merci beaucoup.
Nous sommes très proches de perdre cette guerre.
Qu'est-ce que je fous ici? Vous faites partie d'un programme qui est classé top secret.
Nous cherchons des informations en rapport avec le programme Sentinelle.
On se charge.
Ta femme ne peut pas savoir que tu es en vie.
savez rien.
Allez les amis, on est dans la dernière ligne droite de Tout pour la Lumière. C'est les dernières semaines, profitez-en. En tout cas, on a la chance d'avoir Amaya Carotté qui est avec nous et Louvre Le Coadou qui était là pour le lancement avec nous. Et elles sont là, bonsoir les filles.
Et bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous, Tout pour la Lumière. Évidemment, on continue à suivre vos aventures du lundi au vendredi à 18h sur TF1 avec Tess et Baya. Et s'en est bien passé. Quel recul vous avez maintenant que la série est diffusée depuis quelques mois et de cette célébrité un peu soudaine malgré tout avec cette série. Comment on vit tout ça, Amaya?
Bon, on vit trop bien, c'est cool. Là, on a eu la petite redescente de fin de tournage, on a fini fin juillet. On continue d'être diffusée, donc c'est sympa.
Louvre ?
Bah carrément, je suis d'accord, c'est trop génial, ça continue d'être diffusé comme elle dit, donc c'est à moitié fini finalement vu qu'on suit encore les aventures de nos personnages. C'est vraiment en tout cas apaisant je trouve d'avoir fini et de continuer de voir ce qu'on a fait et ce pour quoi on a travaillé.
C'est une belle expérience.
Bah, on redécouvre un peu ce qu'on a tourné, c'est pas qu'on avait oublié mais on se dit ah ouais il y avait ça aussi. Et là c'est plus proche de ce qu'on a tourné à la fin donc on voit la fin approcher en fait.
Et oui. Alors, il est vrai que pour Tess, il s'en est passé des choses, puisqu'au début, il y avait une espèce de deal, hein, Tess influenceuse, et il y avait cette espèce de deal qui était faite avec l'école, hein, pour en gros prendre des cours, mais il fallait créer l'illusion.
Bah, disons que Tess, elle savait pas trop chanter, elle a un petit peu menti, et elle avait un deal avec l'école, mais finalement, elle s'est quand même trouvé un peu une passion avec la musique. Elle a voulu aussi défendre qui elle était, elle avait son business, mais après, au bout d'un moment, elle s'est dit, mais peut-être que je peux leur montrer que je sais chanter. Que j'ai une âme d'artiste aussi, donc ça c'est cool.
Alors Louvre, il faut dire que dès le départ ça a été compliqué quand même pour Baya. Elle débarque avec sa mère à la Ciotat, elle commence à apprendre qu'elle a un demi-frère alors qu'elle a commencé limite une relation amoureuse avec, enfin tout était compliqué quand même pour cette jeune fille.
Alors effectivement, je pense qu'elle l'a pas eu aussi dur que Eden quand même, qui a vraiment pris toutes les claques qu'on pouvait se prendre dans la série. Moi je pense que pour Baya, ça a été vraiment une amélioration perpétuelle pour laquelle elle s'est battue, c'est-à-dire qu'elle a ouvert sa bouche, elle a dit ce qu'elle voulait et elle a fait, elle a pris en charge sa propre vie et à 16 ans avec beaucoup de maturité et en même temps beaucoup de zèle. Et c'est vrai qu'en voyant les derniers épisodes là arriver, je vois son évolution et je vois ce qu'elle a réussi à faire et je trouve que l'écriture pour ça est hyper intéressante et elle a vraiment évolué donc en tout cas moi je suis fière de voir ce que ça donne et ce qu'elle fait dans la fin de la saison.
C'est vrai que participer à une série où la danse et le chant sont à l'honneur, ça permet aussi d'explorer vos multiples facettes d'artiste et de pas uniquement être sur le jeu, mais parce que c'est vrai que Tout pour la Lumière, vraiment le parti pris, c'est que c'est vos voix, vous chantez vraiment, il n'y a pas de doublure chant, il n'y a pas de tout ça. Et ça, c'est vraiment quand même une particularité qui vous a permis de vivre pleinement l'expérience, quoi, finalement.
Ouais, pour nous, c'était chouette, surtout que Louvre et moi, on a fait une école de comédie musicale. Donc c'était vraiment ce qu'on rêvait de faire finalement. Une série où on peut chanter, danser et jouer. Donc c'est trop cool. Et non, franchement ça c'était chouette. C'était chouette de pouvoir, on avait des répétitions, même si parfois on tournait pas tous les jours. Il y avait des jours où on avait des répètes de danse. C'était des challenges en fait. Donc c'était vraiment cool. Et puis on a eu de la chance, on a eu des compositions exprès pour nous, pour nos personnages. Donc ça c'est génial quoi. C'est
vous pouvez retrouver un téléchargement légal d'ailleurs hein, sur toutes les plateformes. Vous pouvez avoir la bande son évidemment de Tout pour la Lumière si la série vous manque d'ici quelques semaines hein, puisqu'on va arriver à la fin. N'oubliez pas que vous pouvez la revivre aussi bien sûr sur TF1+. Louvre, les meilleurs souvenirs.
Les meilleurs souvenirs pour moi c'est les fous rires au plateau, qui sont pas nécessairement les meilleurs souvenirs pour les réalisateurs d'ailleurs, désolé. Enfin, en tout cas, pour moi, c'était vraiment les meilleurs moments. C'était les moments où les scènes étaient tellement drôles que c'était juste pas possible de les jouer. Les souvenirs en groupe en fait. C'est vraiment le groupe, les gens, que ce soit l'équipe technique, que ce soit les comédiens qui nous entouraient, qui étaient vraiment super, même notre productrice. C'est vraiment l'entourage et les gens qu'on a rencontrés.
Participer à ces séries de troupes, franchement, ça doit laisser des souvenirs impérissables.
Incroyable. Moi, le meilleur souvenir, c'est les pick-up à 5h50.
Oui, aïe, aïe, ça pique vraiment du coup.
Je ne remercie pas Vincent pour ses petits messages la veille qui nous foutaient dans le down direct. À 19h, on savait que le lendemain, on n'avait pas de vie quoi. Non, je plaisante. Non, les meilleurs souvenirs, ouais, c'était un peu pareil. C'est vrai que les fous rires, c'était assez cool. La rencontre avec tout le monde, finalement, on a quand même une équipe hyper soudée. Alors que, je sais pas, c'était comme une télé-réalité quoi. On a quand même mis 15 jeunes dans un même immeuble pendant 5 mois. On aurait pu s'entretuer. Et ça s'est plutôt bien passé. Et
c'est ça qu'on a senti vraiment tout de suite, c'est cette alchimie entre vous. Et ça, c'est vraiment chouette parce que c'est vrai que tu compares ça à une télé-réalité, mais c'est un peu ça. On vous met tous ensemble dans une nouvelle aventure. Vous êtes liés par cette aventure maintenant. Ça crée des amitiés qui sont au-delà maintenant de la série.
Bien sûr, ça crée des relations, des amitiés, toutes sortes de relations. Ouais.
Louvre.
Oui, alors effectivement, je suis d'accord avec tout ce que Amaya a dit.
Tout ce qui est privé reste privé, rassurez-vous.
Mais non, oui, ça crée des amitiés extrêmement fortes parce que Évidemment, 5 mois de travail aussi acharné, entre guillemets, c'est dur. Et on se repose énormément sur les gens. Et d'un coup, d'un jour à l'autre, on est obligé de prendre comme repère des gens qu'on a rencontrés la veille. Et évidemment que ça crée des liens. Et c'est des liens qu'on va garder à vie, c'est certain.
Alors, c'est vrai que une des dernières questions que j'ai envie de vous poser, on ne sait pas encore s'il va y avoir une saison 2, en tout cas, on l'espère tous. Mais s'il y a saison 2, est-ce que vous êtes prête à y retourner ?
À fond, bien sûr, on a trop hâte. Moi, j'ai trop hâte d'avoir d'autres choses à défendre pour mon personnage, d'avoir d'autres fils rouges, de me dire qu'on ne sait pas qui est la famille d'hôtesse, on ne sait pas... Ouais, il y a plein de trucs à faire encore, donc ouais, on a trop hâte. Moi, 100%.
Louve ?
Extrêmement chaud patate.
Je vois, Louve, chaud patate.
Totalement chaud patate.
Elle est sortie en mode juillet, elle me le ressort là, c'est parfait.
J'avais dit ça déjà ?
Oui, tu me l'as sorti une fois.
C'est peut-être mon expression favorite, qui sait, personne ne le saura. Mais non, ouais, franchement, moi, dès qu'on me donne le feu vert, je suis là, je suis à fond et avec grand plaisir parce que encore une fois, c'est une équipe de zinzin. C'est tout ce que j'ai rêvé de faire, comédie musicale, comme dit Amaya, chanter, danser et jouer et défendre un perso que j'aime énormément. Donc ouais, avec grand plaisir.
On espère à l'année prochaine, en tout cas. On va croiser les doigts, évidemment, pour vous. Et puis, continuez à vous régaler. En tout cas, il reste encore quelques épisodes de Tout pour la Lumière à voir. On vous rappelle que c'est 5 jours avant, évidemment, aussi sur Netflix, pour ceux qui ne peuvent pas attendre d'avoir la suite. Et on continue à suivre vos dernières aventures. Merci à toutes les deux d'avoir été avec nous.
Merci à vous, avec plaisir. Merci beaucoup.
Nous deux, là, c'est terminé.
Putain, mais ouvre les yeux. Il l'a poussé à bout, il l'a piégé.
C'est un prédateur, ce mec.
Elles veulent réussir, moi j'ai des opportunités à offrir. Tout le monde est gagnant.
Allier est venu me voir hier. Melville a tout avoué.
Ravi de faire ta connaissance, Juliane.
Je sais pas si tu vas réussir à acheter la validation de ma mère. Je te préviens.
Donc la famille, pour toi, c'est pas important.
Vos enfants, vous les voyez une fois par an, qu'est-ce que vous y connaissez à la famille ?
T'as vraiment envie d'être avec quelqu'un d'aussi torturé ?
Oui, j'ai vraiment envie.
Toi, t'es prêt à foutre 20 ans d'amitié en l'air pour deux pauvres meufs qui savent pas ce qu'elles veulent ?
Dégage, je te dis.
Fais le malin. En un poste, je te termine. Et la France entière sera acté un violeur.
Je te rappelle que sans moi, le deal avec le label, il tient plus.
Le deal, il tient toujours Melville. Sauf que toi, t'es viré.
Allez, on démarre notre spécial Parfum du Bonheur, déjà en intégralité sur France.tv. Vous allez découvrir sur France 2, et bien mercredi soir, les deux premiers épisodes. Notre spécial démarre maintenant avec la réalisatrice qui est avec nous. Bonjour Baya, Baya Kasmi.
Bonjour Alain, bonjour.
J'ai l'impression qu'on se quitte plus en ce moment. Ça fait un mois, t'étais là justement pour nous présenter cette projection qui a eu à La Rochelle il y a quelques semaines. Ça a été un gros carton, en tout cas pour le Parfum du Bonheur. Et t'es pas venue toute seule avec Samantha Mazera, qui est la scénariste de cette mini-série. Bonjour Samantha.
Bonjour, je suis ravie d'être là.
Merci d'être là toutes les deux. Dans un instant, c'est Caroline Anglade et Michel Bernier également qui nous rejoignent. On va rappeler que c'est adapté d'un roman de Virginie Grimaldi. Qu'est-ce qui vous a séduit déjà, alors surtout toi Baya, d'aller dire oui à la réalisation, et on va demander après à Samantha comment cette adaptation s'est passée.
Ben moi, ce qui m'a séduit justement, c'est le scénario de Samantha et c'est le livre de Virginie. Donc moi, je suis venue coup de cœur pour l'histoire, la façon dont elle se déroulait, la façon dont elle se racontait, et pour quelque chose de très palpable, voilà, dans le développement de cette série qui était présent, qui est l'émotion et le rire et des sentiments très humains. Donc ouais, pour moi, c'est vraiment un coup de cœur et un cadeau, voilà, de participer à cette histoire.
Samantha, comment on s'y prend justement pour adapter un livre qui a connu un succès énorme avec une romancière, un nom aujourd'hui qu'on présente même plus, qui est vraiment une des best-sellers ici en France?
On s'y prend avec beaucoup de prudence. C'est beaucoup de travail. On s'y prend tôt le matin et tard le soir. On essaye de collaborer au maximum avec Virginie pour ne pas la trahir, ne pas la décevoir et avoir sa validation sur les choix qui sont faits.
Voilà. Elle avait un œil récurrent justement sur ce qui était écrit au fur et à mesure.
Ouais, c'était ce qui était convenu. Elle a été souvent la première lectrice des différentes étapes de travail pour être sûre qu'elle s'y retrouve, que l'ADN de son roman soit respecté, que ses personnages existent comme elle le voulait. Donc oui, elle a été une espèce d'ange gardien sur mon épaule derrière mon ordinateur.
Alors, faut que tout rentre sur 4 fois 52 minutes, hein, sur 2 soirées. Est-ce qu'il faut faire des choix, des compromis dans ces cas-là, comment on fait ?
Ah ben, je pense qu'à toutes les étapes, on fait des choix et des compromis. Justement, ce qui est fort dans une belle adaptation, c'est qu'au scénario, d'abord, je pense que Samantha, enfin moi qui ai lu les deux d'affilée en plus, donc avec les changements apparents, c'est vrai qu'elle a reconstruit une structure télévisuelle, parce que la télé, on a des codes, on a des habitudes et il faut lancer l'histoire très vite. Chaque épisode doit à la fois être cohérent en soi, c'est-à-dire être en quelque sorte un peu bouclé, et puis en même temps on a cette tradition installée depuis déjà longtemps en France, mais qui nous vient des États-Unis, du cliff, d'une sorte de quelque chose qui va nous retenir jusqu'au prochain épisode. Donc elle a réussi à rentrer dans tous ces codes alors que c'est de l'intimité. Et moi, il fallait que je les respecte aussi. Fallait créer l'identité visuelle aussi qui allait raconter. Il faut faire des choix parce qu'un roman laisse aussi des interstices pour l'imagination. Et nous, on doit la combler, cette imagination, et on doit la rendre réelle et palpable et donner corps à cette histoire. Donc ouais, c'est des choix, beaucoup de choix et beaucoup de choix en accord avec Virginie, c'est vrai.
Alors on va planter le décor un peu ensemble, on va y suivre l'histoire de Pauline et de Ben, qui est un couple qui depuis 10 ans, tout va bien jusqu'au moment de la rupture, chose qui peut arriver aujourd'hui à tous les couples d'aujourd'hui, mais Pauline est complètement dans le déni, alors que Damien, lui, prend la chose un petit peu différemment, à tel point que ça va inquiéter tout l'entourage de Pauline, et on va décortiquer et revenir un peu en filigrane tout au long pour essayer de comprendre ce qui a pu arriver à ce couple pour en arriver là, au bout de 10 ans d'amour, sans nuage.
Oui, absolument. En fait, c'était un des objectifs dans le travail d'adaptation, c'est-à-dire de rendre ce récit dans le roman. En fait, les enjeux ne sont pas saillants. Nous, en télé, on est obligé d'adopter des codes, et c'est vrai qu'on a travaillé avec Virginie et avec Baya ensuite pour que finalement les raisons de cette rupture soient un peu menées comme une enquête, pour rendre chaque épisode addictif avec son lot de révélations. Vient s'ajouter à ça effectivement l'inquiétude des proches, l'absence de soutien par moment et en même temps la complicité avec la fratrie que Baya a magnifiquement mise en scène. Donc voilà, quand on parlait de l'adaptation, du travail d'adaptation, dans les choix, ces choix-là de narration pour recréer de l'enjeu sont hyper importants.
Baya, est-ce qu'il a été difficile de trouver sa Pauline et son Ben ?
Non, j'avais peur parce que je voulais être libre et je voulais rencontrer les bons, mais ça n'a pas été difficile, au contraire, parce que c'est une projection, enfin c'est même une joie quoi, de mettre un visage sur ces personnages qui étaient assez riches, et j'ai eu la chance qu'ils me suivent tous les deux, Caroline Anglade et Xavier Robic, et qu'ils fassent couple aussi vachement bien, parce que ça par contre on a toujours peur, on ne sait jamais à l'avance. Quand on met deux comédiens qu'on aime en présence, on ne sait pas si l'alchimie elle va arriver.
La sauce va prendre.
Exactement. On est là pour ça, mais des fois ça prend pas. Et là, ça a pris merveilleusement. Et puis c'était aussi un grand plaisir de construire la famille autour de Caroline et d'imaginer ses parents et d'imaginer ses frères et sœurs. Et tous les personnages de la série sont très dessinés, ont été très travaillés. Ils ont tous une arche narrative. Ils vivent tous des bouleversements, ils ont tous leur place. Ça, c'est très joyeux, je crois. La famille qu'on a créée, qui s'est créée sur le plateau autour des textes et autour du roman de Virginie, je crois ça transparaît à l'image qu'elle est vraie, elle est soudée.
Est-ce que ça met une petite pression, Baya, quand j'imagine voir arriver Michel Bougenat sur un tournage comme ça, ou des Michel Bernier, des gens que t'admires certainement depuis longtemps, qui viennent tourner sous ta houlette? Comment on réagit, comment on appréhende ça pour justement effacer un peu cette pression?
En fait, oui, ça met une grosse pression parce que voilà, c'est des gens dont on a vu toute la carrière et qu'on apprécie. Déjà, il y a la première rencontre. Est-ce qu'on va réussir à travailler ensemble? Oui, il y a une sorte de pression, d'envie de pas les décevoir. Mais je dois dire que ces deux acteurs-là, que je trouve immenses, moi, j'adore le parcours, Michel Bernier et Michel Bougenat, et Michel Moretti qui joue la grand-mère.
Ils ont une bonhomie naturelle, terrible, les deux, ensemble, ça matche tellement bien.
C'est ça, d'abord ils sont très amis dans la vie, ils s'aiment beaucoup. Ensuite ils ont une bonhomie naturelle et ils sont très sympathiques à l'écran. Et ça, cette tendresse, elle était très importante parce qu'ils ont des rôles qui sont pas faciles. Ils sont loin d'être parfaits, ces deux parents. Et donc il fallait que les comédiens soient très aimables. Mais par ailleurs, ils sont aussi dans la vie des gens qui se la racontent pas du tout, qui ont une très grande humilité, une grande pudeur, une envie de travailler et une générosité avec nous tous qui étions, enfin voilà quoi, moi déjà d'avoir la confiance de ces gens-là et de les voir arriver avec juste le plaisir de travailler et de dire mais qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce qu'on va faire ensemble. Ouais, c'est très émouvant en fait.
En tout cas, on va passer un bon moment, j'en suis sûr. Alors pour ceux qui l'ont peut-être découvert déjà sur France.tv, vous avez l'intégralité de la série. Alors peut-être que vous allez attendre de les découvrir sur France 2 mercredi soir à 21h10 et que vous ne pourrez pas attendre pour savoir la suite, ça tombe bien. Vous allez pouvoir en tout cas la découvrir sur la plateforme. Et puis bien sûr, la semaine prochaine, on continuera à en parler puisque Xavier Robic et Julia Faure seront également avec nous. On parlera des personnages de Ben et de Emma aussi. Et puis on va écouter la bande-annonce. C'est dans un instant, on va revenir avec Caroline Anglade et Michel Bernier. Je vous remercie infiniment en tout cas, Baya. Et puis puis à Samantha d'être venue nous voir pour en parler. Le parfum du bonheur, ça se sent. C'est maintenant, c'est bientôt. Et on va écouter la bande-annonce tout de suite. Merci à toutes les deux.
Merci.
Merci beaucoup.
Je t'aime plus, Pauline. Je veux qu'on divorce.
T'es de nouveau avec Dad ?
Bah oui, enfin, ça va s'arranger.
Donc vous êtes dans la phase 1, le déni.
Ça fait 3 mois que c'est terminé.
Je disais ça pour t'aider.
Et tu m'aides comment, maman ? Par en me conseillant de faire semblant, justement.
Elle nous ment, là.
C'est pas ce que c'est, toi, de lire la déception dans le regard des gens.
Et si l'amour avait une seconde chance ? Le parfum du bonheur, d'après le roman de Virginie Grimaldi. Déjà sur France.tv et mercredi 8 octobre à 21h10 sur France 2.
Et on continue notre spécial Le Parfum du Bonheur. C'est donc mercredi à partir de 21h10 sur France 2 et déjà en intégralité sur France.tv. À cette occasion, eh bien, on reçoit, chose première, chose due, Michel Bernier et Caroline Anglade. Bonjour à toutes les deux.
Et bonjour, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Merci d'être là. Le Parfum du Bonheur, on entend parler depuis longtemps. Ça a été tourné il y a une petite année. C'est vrai qu'on avait hâte de découvrir cette série tirée du roman de Virginie Grimaldi. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette aventure, déjà, Michel ?
Déjà, l'aventure humaine, puisque c'est aussi... En premier lieu, la rencontre avec Baya Kasmi, puis ensuite la lecture du scénario, et puis être dans cet univers familial. C'est un format qu'on connaît moins, le 4x52 comme ça, qui se clôt, quoi. On n'est pas sur une ouverture. On raconte une histoire complète et complexe. C'était très, très attirant de le faire. Et puis après, les rencontres avec mes camarades n'ont fait que confirmer mon sentiment.
J'ai l'impression que t'aimes beaucoup Pauline, Caroline.
Je l'aime extrêmement. Franchement, quand j'ai découvert le scénario, donc parce que c'est d'abord le scénario qui me touche en plein cœur, et tu sais, quand t'as la sensation de tout d'un coup comprendre un personnage. C'est-à-dire qu'il y en a où tu sais pas trop, où tu te demandes même pourquoi on a pensé à toi, où tu sais que ça va être compliqué d'aller chercher des choses, où tu dis, ah tiens... ça va être un peu challengeant, et là ce fut challengeant, mais je l'ai ressenti à la première lecture. J'ai eu envie d'être Pauline et j'avais juste hâte que ça se confirme et que ce soit bien moi qui l'interprète. Ça a été un cadeau pour moi de recevoir un tel rôle où on peut aborder tellement de sujets, d'émotions, de valeurs, et puis voilà. Et comme Michel, la rencontre avec Baya n'a fait que confirmer cette envie. Et puis Baya, moi, je connaissais bien son cinéma, donc je savais qu'elle allait nous emmener dans des endroits très différents de tout ce qu'on m'avait proposé auparavant. Et que j'allais être bien guidée et avec un regard qui allait me faire du bien.
Qui n'a pas envie de travailler avec Baya Kasmi aujourd'hui. Et oui, c'est vrai. Vous avez lu le livre ou pas toutes les deux avant ? Parce qu'il y a vraiment des écoles, hein, quand il y a une adaptation d'un livre comme ça. Soit on s'interdit de le lire justement parce qu'on veut pas, on veut garder une certaine fraîcheur dans le personnage qu'on incarne. Ou alors on le lit aussi des fois pour se rassurer. Donc ça a été quelle école pour vous ? Pour vous deux ?
Moi, je n'avais pas lu, j'avais lu des bouquins de Virginie, mais pas celui-là. Et j'ai voulu quand même m'en tenir qu'au scénario, mais j'ai quand même eu la curiosité de le lire. Finalement, le scénario correspondait quand même en tout point, en tout cas dans les plus grands axes au livre. Donc, mais j'ai eu envie de le lire, ouais. Mais je ne connaissais pas plus que ça l'univers de
à part Virginie. Livre.
Voilà, elle en a écrit beaucoup.
Michel.
Non, moi je me suis laissée vierge de Grimaldi, on va dire. J'aime bien me laisser porter par ce qui va m'arriver. J'aime l'instantané, l'inattendu. J'ai pas envie de me laisser moi influencer. C'est ma façon de faire. C'est pas pour ça que c'est la meilleure, mais en tout cas moi c'est ce qui me convient, c'est d'être de me laisser porter. Voilà.
C'est ça le principal. Il faut que ça se convienne à chacun. Effectivement. Alors, il est vrai que comme on disait, c'est une adaptation à un roman. On y suit le personnage de Pauline. Tout va très vite. Il y a 10 ans d'amour et puis il y a cette séparation. Effectivement, vous allez voir que c'est beaucoup plus compliqué que ça parce qu'on va décortiquer, repartir en arrière. Il y a plein de choses qui vont se passer. En tout cas, Pauline, ce qui est sûr, c'est qu'elle est complètement dans le déni. Elle est complètement dans le déni de cette séparation. Pour elle, c'est sûr, c'est un break. Elle va le reconquérir. Elle va déployer des trésors d'ingéniosité pour essayer de le reconquérir. Et c'est vrai que, alors d'une, c'est un personnage des fois qui nous fait un peu de la peine, puis à la fois qu'on comprend, on est en empathie totale avec elle, puis elle a une maman toujours qui essaie de lui remettre les pieds sur terre quand même.
Bah exactement, bah c'est tout ça, c'est tout ce que tu dis. C'est-à-dire qu'à la fois, et puis Pauline, c'est le milieu, tu sais, de la fratrie, c'est la numéro 2, donc je crois qu'elle a toujours eu un problème de positionnement, de savoir où elle était vraiment au sein de cette fratrie. Avec sa maman, ça a toujours été un peu complexe, donc pas parce qu'il n'y a pas d'amour, mais il y a une maladresse. Elles savent pas vraiment comment se parler toutes les deux. Moi, ça me parle parce que avec maman, on a vécu les hauts, les bas. Quand il y a tellement d'amour, parfois on ne sait pas. Et le personnage de Michel n'est que dans l'amour, mais parfois il y a de la maladresse. On veut protéger ses enfants, on ferait tout pour eux, et C'est juste qu'on ne sait pas comment leur parler, comment leur expliquer avec nos vécus à nous. Donc c'est toute cette complicité, mais c'est vrai qu'elle est en déni total et qu'à travers ses lettres, elle va tout faire à travers ses lettres pour le reconquérir. Ça va l'aider à sortir des choses, mais sauf que ça l'aide pas encore à sortir la chose. Et c'est là où Ben va intervenir aussi, parce que il va avoir lui aussi son mot à dire. Et finalement, on va commencer à comprendre tous les personnages et de voir à quel point c'est différent et pour chacun de se sortir d'une situation, d'un drame, quoi. Et que chacun...
C'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, en tout cas, toute cette histoire qu'on va découvrir. Alors, c'est vrai que la maman de Pauline est toujours là, quand même. Elle n'est pas dans le déni. Elle a compris qu'il y avait une séparation qui était là et elle essaie toujours de mettre sa fille dans le droit chemin en disant « Mais non, Pauline, elle ne viendra pas en vacances. » Enfin, voilà, c'est vrai que c'est une maman qui est dans le réel.
Mais je pense que toutes les mamans sont dans le réel, parce que la souffrance de son enfant est quelque chose d'insupportable. Donc il y a une lucidité chez les parents, souvent. Dites à votre enfant, mais tu sais, tu devrais pas trop fréquenter celui-là parce qu'il est comme ci ou elle est comme ça. Les enfants vous regardent, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi? Et en fait, on sait au fond qu'on a raison. Mais évidemment que sur le moment, l'enfant ne va pas comprendre. Et c'est pareil, je veux dire, de la voir souffrir comme ça et de la voir s'inventer une issue heureuse, alors que la mère sait très bien que ça n'arrivera pas, ben, il y a un truc qui fait d'elle effectivement une femme maladroite. En tout cas, sa fille le prend aussi mal, parce qu'elle veut pas qu'on entende. On préférait qu'on vous dise « Mais non, mais ça va aller, mais oui, mais tu as raison, mais bien sûr, il va revenir, et bien sûr, bien sûr. » En fait, on voudrait arrêter la souffrance. Voilà, quand on est parent, on veut arrêter la souffrance.
Parce qu'inquiétude monte chez sa maman.
Évidemment, quand un enfant est malade, ben, on veut que juste lui donner le médicament pour que ça s'arrête. C'est normal. Voilà. Et là, c'est pareil. On se dit pour qu'elle comprenne vite qu'il faut qu'elle passe à autre chose. Quoi. C'est important, parce que c'est de la survie. Voilà.
C'était un tournage intense qui a duré 2 mois, hein, pour 4 fois 52 minutes. Est-ce qu'il y a un moment qui ressort particulièrement pour terminer ?
Oh là là, il y en a eu tant. Moi, je garde... Il y a eu des scènes intenses à tourner, mais ça, les spectateurs le verront. Mais en vrai, il y a eu tellement de moments intenses, parce que c'est comme on se disait avec Michel et qu'on dit depuis tout à l'heure, mais c'est qu'il y a eu une émotion commune. On pleurait ensemble, on riait ensemble. Le soir, on se quittait pas... Ouais, il y a eu une fusion totale de l'équipe et c'était merveilleux. Et là, c'est dur d'en parler parce qu'on en fait la promo, mais on sait aussi qu'on se sépare un peu de nos personnages et de l'aventure et qu'on lâche le bébé. Et ça nous rend tout aussi joyeux que tristes. Voilà.
Michel, pour terminer.
Le parfum du bonheur, c'est du bonheur et ça a été du bonheur. Intense, merveilleux. C'est l'avantage aussi quelquefois de tourner hors de nos sentiers battus, hors de chez nous, et qu'on s'en va comme ça un peu loin, et donc on se retrouve dans les mêmes hôtels, les mêmes endroits, et ça fait comme une petite communauté qui s'installe, et donc on devient une famille, quand ça se passe bien comme ça, les choses ne s'arrêtent pas, on a du mal à les arrêter. Voilà, c'était un grand moment, et j'espère que les téléspectateurs vont vivre aussi un grand moment.
Comme ce moment qu'on n'a pas envie d'arrêter avec vous, mais qu'on va poursuivre avec le parfum du bonheur, déjà pour les impatients. C'est sur France.tv, mercredi, ça sera 21h10 sur France 2. On découvre les 2 premiers épisodes. Merci infiniment, Caroline. Merci, Michel, d'avoir été avec nous. On vous dit à bientôt.
Merci, 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 merci.
Allez, dans un instant, ne bougez pas. C'est notre spécial. C'était mieux demain avec Vinciane Miro, Julien Lambroschini, Didier Bourdon et Zazie Burstein qui débarquent dans Chut, on écoute la télé. À tout de suite.
Bouge pas, bouge pas. Chut, on écoute la télé. Reviens dans un instant. À tout de suite. Tous les bonus audio et vidéo de votre émission sur onécoutelatélé.com, sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Chut, on écoute la télé.
Je viens comme je suis, sans fort, sans artifice. J'ai rien enfoui, tu devines quand je suis bien ou bien triste. J'ai pas fait l'actrice, je suis un livre ouvert. J'éclate de rire sans retenir, sans manière. C'est comme ça qu'on m'a faite, pas d'ego, pas de paillettes. On m'a appris à être honnête, parfois les étoiles sont des comètes. Je veux bien être une étoile, c'est pour allumer la nuit. Elle est si grande cette salle, elle est si petite cette fille. Tout a changé, rien n'a changé. C'est toujours la même fille que tu connais, que tu connais. Dis-moi que t'as reconnu mourir, même si tout a changé, rien n'a changé. C'est toujours la même fille que tu connais, que tu connais.
Appelle-moi quand tu pourras. Mon numéro n'a pas changé. On ira au café d'en bas. On se racontera nos soirées. Tu me parleras de ton mec. Je veux tous les détails de l'histoire. Enfin si t'es toujours avec. Quand on arrivera à se revoir. Dis-moi si tu me trouves un peu bizarre. Si t'arrives plus à savoir si je suis bien ou triste. Moi je ne veux pas que nos vies nous séparent. J'ai pris le premier train car je voulais te dire. Tout a changé, rien n'a changé. C'est toujours la même fille que tu connais, que tu connais. Dis-moi que t'as reconnu mon rire. Même si tout a changé, viens la changer. C'est toujours la même fille que tu connais, que tu connais. Dis-moi que t'as reconnu mon rire. Même si tout a changé, viens la changer. C'est toujours la même fille que tu connais, que tu connais. Dis-moi que t'as reconnu mon rire. Même si tout a changé,
trouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chute on écoute la télé. Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, on démarre notre spécial C'était mieux demain qui sort mercredi dans les salles. À cette occasion, la réalisatrice Vinciane Milroux est avec nous pour en parler. Bonjour Vinciane.
Bonjour.
Merci d'être là. Et puis son co-scénariste est avec nous, Julien Lambroschini, qui est là. Bonjour Julien.
Bonjour, merci de nous recevoir.
Eh ben, merci d'être avec nous. J'ai eu la chance de voir le film en avant-première, maintenant quelques semaines au festival d'Angoulême, un matin à 9h. Et je dois avouer qu'on a passé un moment mais tellement délicieux parce que on rit, ça permet de faire réfléchir. C'est une comédie à la fois, donc il y a beaucoup évidemment de scènes qui sont drôles, mais qui amènent beaucoup de réflexions avec beaucoup de sujets en filigrane, mine de rien, dans ce film. Vinciane, comment est venue l'idée ?
Alors l'idée, c'est qu'on voulait écrire un film sur les rapports hommes-femmes, sur un couple. Et puis moi, j'adore tout ce qui est voyage dans le temps. J'ai été biberonnée au Retour vers le futur, à tous ces films qui nous emmène d'une époque à une autre. Et donc, Julien, avec qui je travaille sur tous mes films, a eu l'idée de transposer un couple des années 50 à aujourd'hui. Mais on voulait pas juste s'arrêter sur cette idée du voyage dans le temps. On voulait aborder des thèmes de fond, en faire une comédie qui fasse rire, mais avec des sujets assez profonds. Et donc, l'idée nous est venue. Voilà, un couple qui se retrouve bazarder d'une époque à une autre et aborder des sujets qui nous tenaient vraiment à cœur.
Et on va voir qu'en 75 ans, beaucoup de choses ont changé, Julien.
Oui, absolument. On a choisi, en effet, comme dit Vinciane, d'axer ce voyage dans le temps sur le bouleversement dans les relations hommes-femmes et plus particulièrement dans un couple, puisque on peut s'imaginer nos grands-parents, enfin selon l'âge qu'on a, mais dans notre cas nos parents peut-être plutôt ou grands-parents, qui avaient un certain code de fonctionnement dans leur famille, dans leur couple, etc. Et tout ça a été grandement bouleversé petit à petit, mais ce voyage dans le temps, donc ce bond soudain,
permet de le faire brusquement.
Exactement, permet de le faire brusquement, et donc monsieur qui travaillait, madame qui était à la maison, se retrouve soudainement dans une dynamique totalement différente et inversée, ce qui est difficile pour les deux dans un tout premier temps. On touche d'abord à évidemment aux aspects technologiques etc. aussi qu'ils découvrent immédiatement à leur arrivée, mais ensuite on se concentre sur à nouveau donc cette dynamique de couple qui est totalement inversé, puisqu'on a choisi évidemment d'être dans une extrémité dans la définition de leur rôle, sans dévoiler grand chose. Là, monsieur qui travaillait à l'époque se retrouve homme au foyer aujourd'hui, ce qui dans son fonctionnement paternaliste ou machiste de l'époque des années 50 est évidemment l'opposé total quand il arrive aujourd'hui. Et très difficile pour lui, et peu à peu beaucoup plus agréable pour elle, puisqu'elle découvre des libertés qu'elle n'avait pas et des pouvoirs aussi qu'elle n'avait pas au sein de la famille et dans la société et dans sa vie professionnelle.
Et ça va créer des bouleversements qui ne laisseront pas effectivement nos protagonistes indemnes de tout ça, puisqu'on va y suivre donc l'histoire de Hélène et Michel et de leurs deux enfants. On est en 1958, on découvre les premières technologies, la machine à laver, et effectivement Hélène va gagner une machine à laver avec un cadeau bonus, c'est le cas de le dire. Mais ça va pas être du coup de Michel du tout, qui lui va pas bien prendre tout ça, parce que pour lui, une machine à laver ça sert à rien, on lave le linge à la main, et il préfère acheter une télé. Donc évidemment, la petite dispute va éclater dans le couple, et par un système, on va dire, de retournement de situation, on va voir ce couple, on va pas dire comment, va se retrouver basculer en 2025, où là, moi, c'est ce que j'ai aimé, c'est qu'on va à fond dans le sujet, on se retrouve dans un monde ultra connecté. Ils arrivent dans une maison ultra connectée, où que le moindre mot, en fait, la maison s'exécute, quoi. Et c'est ça qui est drôle, c'est d'avoir poussé justement ce bouchon le plus loin possible de la réalité qu'on est aujourd'hui finalement, Vincent.
C'est très bien résumé, bravo. On a essayé de pousser un peu les curseurs. Alors c'est vrai qu'en 1958, à la maison, il n'y a pas grand-chose. Et quand la machine à laver arrive, quand elle gagne cette machine à laver, elle sait très bien le gain de temps que ça va lui accorder. Ça va lui permettre d'avoir un peu plus de liberté. Lui, ça lui plaît pas vraiment qu'elle ait beaucoup plus de liberté. Il est plutôt très content qu'elle soit à la maison à s'occuper des tâches ménagères. Quand ils arrivent en 2025, on a essayé de se mettre à la place de ce couple. On s'est dit, si on arrive dans une maison un peu lambda, voilà. Donc on a essayé de la surconnecter pour qu'il soit complètement largué et qu'il y ait vraiment ces curseurs poussés à l'extrême qui nous permettaient d'aller vers la comédie, évidemment, parce que toute l'arrivée dans la modernité, ça prête à comédie. Et aussi, sur cette inversion, comme disait Julien, il travaillait, il ne travaillait plus, elle ne travaillait pas, elle travaille. Alors, qu'est-ce que ça crée dans le couple?
Et avec des fonctions importantes en 2025.
Importantes, alors qu'elle n'a jamais travaillé. Donc ça prêtait aussi à comédie, et ça amène aussi, parce qu'on voulait faire évidemment une comédie avant tout, mais pas que. C'est-à-dire qu'on voulait traiter de sujets de fond, on voulait traiter de sujets sérieux, et puis même si lui, quand il arrive en 2025, il n'a qu'une envie, et on le comprend, c'est de repartir, elle est plutôt bien dans l'époque, mais c'est pas si simple que ça en fait. Tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Il y a des choses qui s'immiscent un petit peu, il faut aller voir le film, qui font que, voilà, en fait, ce voyage dans le temps nous permettait aussi qu'ils se rencontrent eux-mêmes afin de se redécouvrir dans le couple.
Ça, c'est bien dit. C'est merveilleusement bien dit. On va dire aussi qu'ils ont deux enfants et que Jeanne, leur fille, va jouer un rôle prépondérant dans cette histoire, puisque le feu aux poudres en 1958, c'est que les parents vont apprendre qu'elle est enceinte du voisin. Donc évidemment, en 2025, il va se passer tout autre chose dans l'histoire de cette jeune fille, qu'on va pas dévoiler là, comme ça on laissera le plaisir aux spectateurs de le découvrir. Mais c'est vrai qu'il y a aussi tout cet enjeu, le couple est... au cœur de l'histoire, et leur fille va faire partie en tout cas des personnages clés aussi.
Alors les enfants, mais surtout le rôle de Jeanne, leur fille, qui est un déclencheur en fait de l'histoire, hein, parce que c'est parce qu'elle tombe enceinte qu'il faut qu'elle se marie, parce qu'à l'époque elle avait 19 ans et que la majorité étant à 21 ans, il n'y avait pas le choix, fallait se marier. Quand ils arrivent dans l'époque, on retrouve les enfants, vraiment mon désir c'était de prendre les mêmes acteurs qui jouent les deux rôles, et en 58 et en 2025, et les voisins et les enfants. Donc évidemment, leur fille a changé un petit peu physiquement, mais ils la reconnaissent quand même. Je laisse aux spectateurs la surprise, mais ça va déclencher des choses.
Un tsunami pour Hélène et Michel.
Exactement.
Enfin, surtout pour Michel.
Surtout pour Michel. Un tsunami pour eux. Enfin, tout va être. Et puis, pas que ça. La vie, l'époque, la paisibilité de l'époque en 58, avec les villes qui débordaient de petits commerces de bouche, etc. Et aujourd'hui, les commerces de bouche et les petites villes de province qui s'éteignent. Enfin, il y a plein de choses. On a voulu parler de plein de choses. On a abordé l'écologie un petit peu. On a abordé les petites villes de province, le couple.
Et plein de sujets en filigrane.
Exactement. Il y a plein de sujets en filigrane.
C'est ça qui est hyper intéressant, justement, d'aller voir découvrir ce film, parce que non seulement on rit, mais c'est ce que je disais, prête vraiment quand même aussi à la réflexion. Et moi, je suis ressorti du film, bien peut-être en comprenant plus les parents ou les grands-parents qui aujourd'hui sont largués et qui comprennent pas tout, et qui souvent demandent à leurs petits-enfants de les aider, etc. Et là, on s'imagine qu'ils ont connu ça dans l'évolution lente, mais là, quand t'es parachuté 75 ans d'un coup de façon brutale, c'est vrai qu'on les comprend plus aujourd'hui.
On les comprend plus. Moi, j'imagine les gens qui sont nés au début du 20e siècle, qui découvraient l'imprimerie, parce que c'était ça, qui ont ensuite découvert Internet, le téléphone portable et tout. Mais je comprends qu'aujourd'hui, les gens de cette époque-là soient complètement largués. Nous, on va certainement l'être avec l'intelligence artificielle, qui en est aux prémices, mais qui, à mon avis, va...
exploser dans les 10 prochaines années.
Ça, c'est sûr, et on va être complètement largués. Et puis, il y a tout le rapport à la modernité, et aussi des choses qui sont... qui sont propres à la société de chaque époque. Par exemple, moi, je voulais vraiment qu'on s'attelle avec Julien à montrer que en 70 ans, il s'est quand même passé aussi beaucoup de choses pour les femmes. Parce qu'on est dans une société où on dit...
Ça va passer vite, etc. Il reste encore...
Chose. Ouais. Mais ce qui est vrai...
Ah oui. Alors, ça, c'est sûr.
En tant que femme, je peux vous dire qu'il reste encore énormément de choses. Mais n'oublions pas qu'en 70 ans, il s'est passé énormément de choses. En 1958, la femme n'a qu'une chose... Elle a le droit de vote depuis 46. Elle n'a pas le droit d'avoir de carnet de chat. Pas...
Elle n'a pas le permis. Elles ont pas le permis.
Pas le permis. Elle n'a pas le droit de travailler sans l'accord de son mari. Pas le droit d'avoir de compte en banque à elle-même. Elle ne peut pas payer son mandat à son mari. Et c'était il y a 70 ans. C'est hier.
Ça nous paraît fou, nous, à nous.
Pas de moyen de contraception. Pas d'avortement. Rien. Elle n'a qu'une chose. C'est le droit de vote. Et je pense que si elle ne vote pas comme son mari, il vaut mieux qu'elle se taise. Donc, c'est pour montrer aussi que même si il y a encore un boulot incommensurable pour les femmes, il s'est quand même passé des choses. Et donc, on voulait traiter de ces deux époques sans les juger ni l'une ni l'autre pour montrer ce qui avait changé et chez l'homme et chez la femme. Et lui, qui arrive aujourd'hui dans la période post-MeToo, il n'est pas très très à l'aise. Mais ce n'était pas le sujet, ça c'était un prétexte. C'était surtout le couple, le couple, le couple, le couple.
Et on va voir que Michel, ça risque de le changer à jamais, y compris en 58. En tout cas, il y a des décors hyper soignés. Toute la partie des années 50 est hyper soignée. On voit tellement bien la transition entre les deux. Il y a vraiment un très très beau travail des chefs décorateurs aussi qui ont été faits. Est-ce que ça respecte bien ce que vous avez coécrit ?
Oui, oui, bien sûr que ça a absolument respecté. D'autant plus que pour ce qui est des années 50, on a tous une image idéalisée des années 50, une image d'Épinal comme ça, que ce soit les voitures, que ce soit les couleurs, que ce soit les coiffures, etc.
L'euphorie, l'après-guerre.
Et donc ça c'est immédiatement cinématographique parce que ça transporte et je pense que Vinciane et tous les techniciens derrière ont fait un super travail là-dessus. Et oui, bien sûr, ça correspondait à ce que j'imaginais puisqu'il fallait que ça coche les cases à nouveau d'une image d'Épinal. Sans dire que c'était idéal, sans dire que c'était mieux avant, que ce soit la mode ou que ce soit la société, mais il fallait quand même qu'il y ait cette référence immédiate aux années 50, qu'elle soit visible et qu'on ait plaisir de s'y plonger avant de mettre ensuite du bémol dans les relations humaines, parce que ça n'était pas forcément mieux avant, même si, bon, les... Voilà, on peut avoir des goûts sur la mode et des aspects comme ça. Et ensuite, sur la période de 2025, là, j'avais moins de choses à imaginer puisque on y vit en 2025. Donc, j'ai moins une image figée de ce qu'est 2025. Donc là, c'était un choix vraiment qui appartient encore plus à la réalisatrice et aux techniciens, parce qu'il y a plein de 2025, alors que les années 50, pour moi, il y en a qu'une d'image, qui est la mienne, hein, mais une image d'Épinal. Voilà.
En tout cas, on vous invite à aller voir ce film. Ça sort mercredi dans les salles. Vinciane, Julien, merci d'avoir été avec nous. J'espère qu'en allant voir le film, vous allez pouvoir répondre à la question. C'était mieux hier ou c'était mieux demain ? Bande annonce.
Michel ! Je passe pour qui, moi, si tu sors comme ça,
hein? Merci, ma petite femme.
J'aime pas la couture.
Plus une femme est au foyer, pas au bureau.
Mais tu te rends compte? Un lave-linge moderne.
C'est formidable, on va pouvoir le revendre.
Ah, c'est hors de question.
Qui rapporte de quoi sustenter toute la famille?
Eh, où ça va? Tu pars pas à la chasse à l'ours tous les matins non plus? Non.
Café.
Il y a cette machine qui s'est allumée.
Appelle la police.
Appelle police.
Mais on est en quelle année? Tout est normal, rien ne nous surprend.
Oh,
mais t'es pas en retard pour aller au boulot?
Et on continue notre spécial « C'était mieux demain ». Oui, ils sont là avec nous. On a la grande chance d'avoir Elsa Zilberstein qui nous a rejoint. Bonjour Elsa.
Bonjour.
Merci d'être là. Didier Bourdon également à notre micro. Bonjour Didier.
Bonjour.
Alors, c'était mieux demain. On a planté le décor un petit peu avec Vinciane, justement, il y a quelques instants. On va parler d'Hélène et Michel, qui sont parachutés 70 ans d'avant. C'est un peu le retour vers le futur en arrière, on va dire. Mais quand ce qu'on a ri, ça fait du bien de rire comme ça. J'imagine que sur le plateau, vous avez dû quand même pas mal rigoler, vous amuser aussi à jouer ces rôles-là.
Moi, pas du tout, parce que je trouve qu'on s'amuse pas spécialement quand on fait une comédie. Les gens pensent toujours qu'on...
C'est plus difficile.
Non, pas spécialement. Les deux sont difficiles, moi, je trouve. Peu importe que si on a ri ou pas ri sur le plateau, ce qui compte, c'est que les gens rient dans la salle, en fait. Ce qui était assez génial, c'est de lire le scénario, qui était absolument prodigieux, et de voir le parcours de ces deux personnages qui passent des années 50 à 2025, et de voir comment cette évolution va impacter leur lien et comment ils vont se découvrir mieux, comment ils vont se comprendre mieux. Donc, tout ça, c'était merveilleusement écrit. Et le parcours de Hélène, contrite, empêchée, qui part des années 50, qui arrive dans ce monde qui lui fait peur au départ, même si elle en a rêvé, mais elle a un peu peur de sa liberté. Et finalement, elle va s'épanouir, se découvrir et lâcher quelque chose d'elle-même et mieux aimer son mari aussi et mieux se comprendre. Voilà. Et ça, c'était génialement écrit. Et surtout, le mélange du drame et de la comédie. Je trouve qu'il n'y a rien de plus drôle que d'être dramatique. Enfin, en tout cas, les personnages, nous, on passe par des émotions absolument puissantes et folles et vraies et émotionnelles.
Et les nous aussi, spectateurs, c'est ça qui est chouette.
Coup, c'est les situations qui sont drôles. C'est pas à nous, y a rien de pire que les gens qui font, regarde comme je suis pas dedans et comme ça me fait rire de faire une vanne. Je trouve ça ignoble. Et c'est jamais drôle en plus. Mais il y a rien de plus drôle que toutes les comédies qu'on aime les uns les autres. Je pense qu'on se sera les mêmes. Ben, les personnages, ils sont mus par des émotions fortes et puissantes et ils ont un chemin. Voilà.
Didier, ce rôle de Michel.
Non, là, on s'est marré, c'est vrai, quand on a lu le scénario. Après, c'est vrai que sur le plateau, alors je dis pas qu'on fait la tête, mais on est très concentré. Peut-être on a une jubilation intérieure quand on sent que la scène, on la tient bien, quoi, ça c'est sûr. Mais c'est le paradoxe du comédien, mais sinon, les personnages doivent être hallucinés, pour la plupart du temps au début du film. Et après, d'être dans une situation même dramatique, hein, puisque, bon, mon personnage sent qu'il perd un peu sa femme et il se demande ce qui lui arrive, quoi. Enfin, on va pas tout dévoiler, bien évidemment, mais vraiment, on a été très très bien servi par un scénario qui nous a offert plein de palettes de couleurs à jouer.
C'est vrai qu'il perd pied au départ parce que les rôles s'inversent totalement et il se rend compte, lui, il est parachuté en 2025, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et même Hélène au départ, et finalement, Hélène, autant s'y fait bien que Michel, ça va être très compliqué pour lui.
Oui, alors après, comme dit Elsa, c'est un couple qui s'aime, donc on peut pas dire que ça change du tout au tout, puisque d'ailleurs c'est ce que je jouais ma femme même, mais pourquoi elle ne me le dit plus, pourquoi elle fait des choses et elle ne m'écoute plus. Là on parle du couple, mais il y a aussi beaucoup de rapports avec les enfants qui sont formidables dans le film.
C'est là d'ailleurs qu'il y a beaucoup de scènes d'émotion avec vos enfants.
Oui, bah oui, parce que là c'est très très bien écrit, on voit bien que dans les années 50, moi j'ai des petits a priori, une femme doit rester à la maison, et puis d'un seul coup on va pas dévoiler, mais ma fille prend des directions que je ne soupçonnais pas, je les prends mal, mais en même temps ce qui est beau c'est qu'à la fin je les accepte, parce que j'aime ma fille, j'aime ma famille. Et le plus important, c'est leur bonheur. Voilà. Donc, et ça, c'est écrit de manière fine et pas poussée.
C'est vrai que la réalisation est vraiment, mais vraiment très chouette là-dessus. Et puis, nous parachute vraiment dans ces deux époques qui nous font réfléchir aussi sur l'évolution de la société. Il y a tout plein de petits points qui viennent aussi nous rappeler au fur et à mesure la technologie. Il y a plein de choses en filigrane qui viennent nous rappeler quand même d'où on vient aussi.
Bah en fait, ce qui est beau, c'est les 1h40 de film, il y a tous les sauces. C'est en accéléré les 70 ans d'évolution de la technologie et des femmes et des hommes et de leurs rapports et de tout ce qu'on a passé, tout ce qu'on a acquis comme droit les femmes. Et ça, c'est vraiment jouissif.
Les looks des enfants, notre fils qui au début est hyper bien brossé, les cheveux courts et tout, avec après les cheveux lus, un peu crado. Et les jeunes d'aujourd'hui, quoi. Et tout ça, c'était sympa à jouer d'un côté le regard ahuri des parents.
C'est vrai que moi, ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, nos grands-parents, quand on voit tout ce qu'ils ont vu sur 70, 80 ans et cette évolution, bah, c'est vrai que moi, je suis ressorti du film en me disant, bah, je les comprends mieux quand ils me disent qu'ils sont largués, quand ils me disent qu'ils ont du mal à suivre tout ce qui se passe.
Bah, j'imagine, pour quelqu'un qui a 80 ans aujourd'hui, Internet, tout ça, les téléphones, ils ont grandi dans un monde qui n'est pas comme ça. Donc, nos personnages des années 50 qui débarquent ici, le téléphone, la cuisine, leur cuisine qui n'est pas la même, c'est le petit côté retour vers le futur que je trouve génial. Et puis, la folie de la technologie qui est merveilleuse et en même temps qui est dangereuse. Il y a des choses absolument géniales dans l'évolution et en même temps, enfin, on se rend compte de la peur qu'ils peuvent avoir de cette évolution trop rapide avec cette technologie qui peut rendre fou, vraiment.
Qui ne résout pas les problèmes les plus graves de notre existence. Et les réseaux sociaux n'ont pas empêché la haine, loin de là, de disparaître. Même dans l'écriture, il n'y a jamais de redondance, c'est très très important. Parce que dans un scénario, moi je me méfie toujours des choses, on dit tiens, on l'a déjà vu, c'est pas bien. Et là, l'écran est très cruel avec ça. Dès qu'il y a une redondance, on dit oh, c'est pas très intéressant. Faut un peu comme les sketchs des inconnus, on faisait très attention. Dans un sketch, voilà, on a une couleur, bon, on passe à autre chose. Ce qui fait qu'après, les gens ont envie de revoir le sketch. Mais si d'un seul coup, on est redondant ou trop long, et là, le scénario était vraiment ciselé.
On s'ennuie pas une seconde, hein. C'est très rythmé, on voit pas l'heure 40 passer, ça c'est magique.
On était ce matin dans une salle, et on est arrivé, les gens étaient bouleversés, et après ils nous ont dit on a tellement ri, on a parlé comme ça depuis des années. Donc ce qui est vraiment réussi, je trouve, dans le film, et c'est pas tous les jours, quand je disais de lire un scénario avec du sens et qui est très très drôle, et les réactions du public sont extraordinaires. Les gens sont comme des dingues avec le film. Donc ça, c'est magique quand même.
Si aujourd'hui, Elsa et Didier, de 2025, devaient être parachutés en 1950, c'est quoi qui leur manquerait le plus ?
Le téléphone.
Les inconnus.
C'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et nous avec, j'avoue.
Non, je dis ça rigolo parce que, oui, moi, je suis né en fin des années 50. Ce qui me manquerait plus, non, mais c'est le sujet du film, c'est que, très honnêtement, on va dire une bêtise, hein, c'est une platitude, mais mieux vaut être heureux en 1950 que malheureux en 2025 ou au Moyen-Âge, quoi. C'est le bonheur, et le bonheur est magnifique parce que le bonheur peut se nicher n'importe où. Qu'on ait de l'argent, pas d'argent, Dieu merci, le bonheur peut se nicher partout. C'est un peu le sujet du film, c'est un couple qui s'aime. Alors après, bien évidemment, il arrive des trucs ahurissants, mais au départ, s'il n'y a pas cet amour-là, le film n'aura aucun intérêt d'ailleurs.
Ouais, parce qu'on ne sent jamais vaciller finalement le couple malgré tout ce qui arrive. On sent qu'il y a quelques... Ils ne sont pas toujours d'accord quand même.
Non, mais même si elle découvre cette liberté, elle veut vivre sa vie. Elle aime son mari, quoi. Elle aime son mari. Mais c'est beau, c'est l'évolution technologique, l'évolution du monde qui fait que du coup, la liberté de la femme, avant, elle était quand même enfermée dans les années 50, dans quelque chose. Elle n'a pas de liberté économique. Elle lave, elle repasse, elle fait tout pour que sa famille soit heureuse.
En 2025, elle se retrouve avec des fonctions incroyables.
Et du coup, en 2025, cette liberté-là lui donne des ailes. C'est pas pour ça qu'elle n'aime plus son mari. C'est que tout d'un coup, il ne peut plus la contrôler. Au contraire, ils se choisissent encore mieux.
Ils veulent le package complet. Mieux.
Voilà.
Oui, mais moi, je suis heureux de voir ma femme s'épanouir. Au début, ça me fait peur parce qu'on va pas raconter, mais puisqu'on est dans un truc un peu délirant où j'ai envie de retourner dans les années 50. Mais l'essentiel, c'est que voilà, elle soit épanouie. Et d'ailleurs, au début aussi, pareil. Puis mon personnage aussi d'homme, c'est là où c'est très bien écrit. On peut pas dire que l'homme soit aussi tellement épanoui dans son boulot. Hein. Il a un boulot de merde. Mais, comme il dit, qu'est-ce qui ramène à la maison de quoi te sustenter? Voilà. Donc, il pensait qu'être l'alpha et l'oméga là-dessus. Ben non, une femme peut aussi... Non, franchement, on a été gâtés parce que le scénario qui était très travaillé, on l'a su quand on l'a lu. Hein. Et ben à l'écran, ça se ressent parce que.
C'était mieux demain sort mercredi au cinéma. On ne le rate pas. Vous allez rire, vous allez en prendre plein d'émotions également. Et puis vous allez voir, ça fait du bien aussi.
Justement, c'est un film qui rassemble.
Ouais.
Et ça, c'est important.
Toutes les générations peuvent effectivement s'y retrouver. Ouais, et bon. Voilà. Et alors, c'était mieux hier ou c'était mieux demain pour terminer?
Bah, ça sera mieux hier.
Il n'y a pas de... Je trouve que chaque époque a ses belles choses. Voilà.
Merci beaucoup à tous les deux. Et puis Didier, on retrouvera bientôt sur TF1 pour la saison 2 du Daron. Aussi, une nouvelle saison inédite qui arrivera. C'est reparti avec Mélanie Bernier. On va évidemment aussi beaucoup rire. Et puis Elsa, les projets pour terminer aussi, pour ce qui va arriver là dans les quelques mois.
Beaucoup de choses. On en parle.
Bon, ça sera l'occasion de revenir.
Absolument.
Merci à tous les deux et à bientôt.
Merci.
C'est moi la patronne.
Comment ça ?
Mais je sais pas.
Oui, entrez.
On va tenter de rentrer chez nous.
Téléportation, 1958.
Oh, dis-moi que t'as trouvé.
Non, pas encore. Apparemment, on a marché sur la lune et Jessica a trompé Kevin avec Stacy dans un bain à bulles.
Et t'en changes, je me sens libre.
Je t'en connais pas. Je reconnais pas ma femme.
Faut trouver comment rentrer, Elena. Ou je sens que ça va tourner au vinaigre.
Oh là, ça va, prends un peu sur toi, hein.
Michel.
Oh, c'est une petite télé.
C'est un téléphone du futur. Faut que je te laisse, j'ai un zoom.
Qu'est-ce que c'est que ça?
Comment tu veux que je sache?
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Allez, lundi prochain dans Chute, on écoute la télé spéciale Star Academy. L'émission fait son grand retour sur TF1. La quasi-totalité du corps professoral seront nos invités exceptionnels, ainsi que Noah, ancien candidat de la saison dernière. On aura également le plaisir de consacrer une page spéciale au film Jour J de Clozzi Junior avec Kev Adams, Chantal Latsou et Jarry qui seront avec nous.
Le rendez-vous des stars. C'est Chute, on écoute la télé, votre talk show radio.
Allez, je vous invite à rester connectés avec nous. N'oubliez pas que vous avez également le podcast de la quotidienne tous les jours à midi sur notre site onécoutelatélé.com et que chaque lundi à 20h, on vous donne rendez-vous évidemment pour le podcast de l'hebdo de Chute, on écoute la télé. Vous pouvez rester également connectés avec nous tout au long de la semaine sur notre page Facebook Chute, on écoute la télé et télécharger également nos applications pour iPhone et Android. Chute, on écoute la télé. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast de Chut, on écoute la télé, l'hebdo. À lundi prochain, 20h.
Chut, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier en Nouvelle-Aquitaine. Des glaces sans ajout d'arôme, sans colorant, sans conservateur. Découvrez les sorbets, crèmes glacées, cônes artisanaux et la nouvelle gamme de pots gourmands, Jade et Ali, disponibles dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré. Chut, on écoute la télé avec vos boutiques de prêt-à-porter Speak en Nouvelle-Aquitaine. Speak, c'est la mode homme, femme, des pépites chaque semaine pour tous les budgets. Mais Speak, c'est aussi un corner seconde vie pour les vêtements que vous ne portez plus. Alors n'hésitez pas. Plus de 15 boutiques Speak vous attendent en Nouvelle-Aquitaine. Retrouvez toutes les adresses et la boutique en ligne sur speak.fr.